Bonjour et bon après-midi, bienvenue dans ce groupe de partage sur la non-dualité dans la vie quotidienne. J'en profite pour saluer les nombreux frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment derrière les haut-parleurs de l'ordinateur, qui nous écoutent à distance et qui font d'ores et déjà partie de notre groupe. Je vais commencer avec un petit son de cloche, juste à écouter dans l'instant présent, dans cet instant éternel qui est le moment présent où nous sommes en conscience. Voilà, nous sommes quelques-uns réunis ici à Romainville, autour d'une table avec des petits grignotages, dans cet après-midi assez belle du 18 janvier 2014. Est-ce que je l'ai déjà dit, peut-être? Tout ça n'a pas d'importance. Non? Voilà, ben c'est dit. Il est 16h45, presque. Et je me réjouis que vous me donniez l'occasion de remplir ma mission, qui est de rassembler, réunir autour des sujets proches de la conscience, autour des sujets proches de l'unité que nous représentons. Bon, je vais introduire ce groupe en quelques phrases, et puis ensuite, avec ce micro que nous passerons et qui servira de bâton de parole, et avec cette distance approximative de 30 cm pour que le son soit bon, nous pourrons, si nous le souhaitons, partager nos propres expériences, que ce soit des expériences tout à fait anodines ou des expériences grandioses que nous avons pu vivre dans nos vies, qu'elles aient été transformatrices profondément ou qu'elles nous aient donné un signal pour notre vie et pour un enseignement, un signe, tout simplement un signe. Voilà, et puis avant de commencer, je vais laisser l'Esprit 1 nous guider cet après-midi et me guider aussi, en citant 5 phrases qui m'inspirent beaucoup, que je cite souvent dans ma vie, basées sur le livre « Un cours en miracle », un enseignement non-duel assez majeur et qui vraisemblablement est appelé à se répandre encore davantage et à faire parler de plus en plus de lui. Peut-être y reviendrons-nous. Mais ces 5 phrases situées en page 5 disent ceci. « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Et fort de la puissance de ces 5 phrases, pour moi, je laisserai, lorsque je serai guidé à intervenir, ou à ne pas intervenir, je laisserai la guidance parler, celle qu'il a au moment où elle est là. Voilà, donc nous allons parler de non-dualité. D'emblée, je dirais, ce n'est pas un groupe grave ni sérieux. Et il y a une seule condition pour participer à ce groupe, c'est d'être un être humain. Pour l'instant, ça va, hein, tout le monde remplit cette condition. sachant qu'il y a certainement des présences non humaines avec nous, et bienvenue. Elles pourront nous aider à transmettre leur message par notre intermédiaire. Et puis, beaucoup de... Voilà, j'invite aussi tout l'invisible à être présent avec nous. Je parle de ceux qui prendront le micro. Pourquoi je dis ça? Parce que cette non-dualité, elle concerne absolument chaque humain, de quel qu'il soit, que cet humain soit ou non sensible aux enseignements non-duels, ait lu ou pas lu Un cours en miracle ou d'autres livres, connus ou moins connus, qui disent et qui commentent cette phrase très courte et très simple, qui dit « Nous sommes un », même si parfois nous sentons très séparés les uns des autres, sentons aussi très opposés à quelqu'un ou au monde entier, ou à la planète, ou à une catégorie de personnes, un groupe de personnes. Alors, en d'autres moments, nous avons une conscience plus aiguisée de notre interconnexion et que ce que je vois en face de moi peut parfois se révéler être le reflet de ce que je pense. Parfois, c'est évident et parfois, ça l'est moins. Donc, on va parler de ces choses-là. On va parler aussi de notre dualité intérieure qui dit qu'il y a en nous une part d'esprit juste qui aborde la réalité sous l'angle de l'unité, qui dit qu'il n'y a pas deux êtres séparés, mais que nous sommes tous un seul être et nous sommes interconnectés à la totalité de l'existence, que certains appellent Dieu, que certains appellent la source, que certains appellent tout ce qui existe, la nature, etc., notre intuition, l'esprit, l'intelligence absolue, l'infini, voilà. Les mots ne manquent pas pour décrire une vastitude qui englobe la totalité de la réalité. Et certains ouvrages non-duels, et puis aussi Jésus, il y a 2000 ans, exprimaient cette non-dualité avec seulement deux mots, en disant « Dieu est ». Sachant que ces deux mots invoquent que Dieu est tout ce qui est, comme je viens de le dire, et que nous sommes une partie de cette totalité-là. Nous sommes une extension, mais pas séparée pour autant de cette unité-là. Alors, il est dit dans certains ouvrages non-duels, et je le crois aussi, que nous sommes Dieu, nous avons toutes les propriétés, toutes les caractéristiques de Dieu, sauf une. Et celle que nous n'avons pas, c'est que Dieu nous a créés, mais que nous n'avons pas créé Dieu. Et que nous ne pouvons pas aussi nous décréer nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas non plus décréer Dieu. Quand je dis Dieu, ce n'est jamais au sens religieux du terme, hein, même si religieux, ça veut dire se relier à. Hein, donc oui, dans ce sens-là, oui. Mais pas dans une acception dogmatique qui dit trembler parce que l'enfer est proche. Enfin, je dis ça, j'aurais pu dire autre chose.
Tu dis l'amour, je dis Dieu, l'amour.
Voilà. Il vaut mieux parler avec le micro, sinon les frères et sœurs qui nous écoutent n'entendent pas ce que tu dis. Ou alors je dis l'amour, hein, c'est
ouais,
ça que tu disais.
L'amour. Tu dis Dieu égale l'amour. Donc je dis maintenant c'est l'amour, mais tu dis une fois Dieu.
Voilà. Dieu est amour, Dieu, voilà, on peut dire une fois Dieu, ou dire l'amour, c'est des synonymes, en effet, oui. Tout ce qui est. Alors, dans cette phrase qui dit Dieu est tout ce qui est, il y a une conséquence à dire ça. Comme si on accepte que Dieu représente tout ce qui est, suite logique, c'est Dieu ne peut pas s'opposer à quoi que ce soit, puisqu'il est tout. Hein, il s'opposerait à lui-même. Et c'est inconcevable. Hein, s'il n'y a pas un opposant, un adversaire, quelqu'un de séparé de moi, je ne peux pas m'opposer. Parce que ça nécessite cette dualité-là. Donc Dieu ne s'oppose à personne, ne juge pas, et donc est pur accueil, et aussi donc pur amour. Hein, puisque l'amour accueille tout. Hein, et Dieu aussi, c'est l'amour qui accueille tout. Mais ça va loin hein, quand on parle de Dieu est. Voilà, donc nous représentons l'extension naturelle de Dieu, c'est-à-dire des êtres qui ont tous les pouvoirs, les caractéristiques de Dieu, mais n'en sont pas séparés pour autant. Hein, pour l'ego que parfois qui essaye de comprendre, c'est un peu compliqué. Mais nombreux sont les paradoxes lorsque nous raisonnons à partir de ceux qui se croient séparés, donc que j'appelle aussi égaux. Donc aujourd'hui, bienvenue à parler de situations très simples. Hein. Et une des situations qui pour moi est vraiment évidente et qui met en avant, qui peut amplifier le sentiment de séparation, c'est mon véhicule. Hein. Alors, il y a mon véhicule terrestre qui est mon corps, mais aussi mon auto, comme dirait Marie-Lise Labonté, qui est un autre véhicule et que moi j'appelle un super-ego. Pourquoi un super-ego ? Parce que, avec une pédale qui est sous mon pied droit, je peux propulser mon corps de 0 à 100 km/h en 12 secondes. Et donc, quel pouvoir ! Voyez-vous ? Hein, ne sentez-vous pas mon pouvoir? Et donc, j'ironise, hein, bien sûr.
Ah bon?
Je crois utile de préciser. Et donc, lorsque moi-même je sens mon ego assez fort et que mon identité terrestre est très présente dans mes perceptions et que je dis moi-je, par exemple, moi-je passerai avant toi, hein, sur le périphérique. Moi, je ne te céderai pas la priorité, ou moi, je me rabats devant toi, peu importe si tu es tout près ou loin de moi, sans faire attention à toi, alors j'utilise cette voiture comme une extension de mon ego. Donc, voilà, la voiture dans la vie quotidienne, c'est une manière, c'est une possibilité, parce qu'elle peut être utilisée aussi de manière très douce, hein, la voiture. Hein. Mais c'est une opportunité pour amplifier la partie égotique de moi-même qui dit « Moi, je suis puissant et moi, je te dirai qui je suis au moyen de ma voiture, au moyen de ma conduite. Hein. » Donc, tout ça n'est pas jugé. Hein. Voilà. Alors, je parle de la voiture parce que parfois je sens que moi-même je dois me réfréner en regardant, en ne jugeant pas la conduite des autres sur le périphérique. Et j'ai à cœur de signaler que lorsqu'il se passe quelque chose sur le périphérique, par exemple... quelqu'un va sur la fiche de gauche, c'est comme les bip bip là sur les dessins animés. Je vois que j'ai deux façons de l'interpréter. Et à chaque fois que je réagis à une voiture ou à quelque chose d'autre, je peux l'interpréter de deux façons. Alors, j'ai remarqué que ça marche bien dans la voiture. La première réaction, c'est celle de mon ego, parce que l'ego parle en premier et parle fort, donc il va couvrir éventuellement les autres voix plus douces qui peuvent naître dans mon esprit. Et mon ego va soit juger immédiatement, ou soit me proposer une insulte au choix parmi un grand éventail qui convienne à ce moment précis. Espèce de trois petits points. Ça va pas à la tête. Et puis, lorsque je ne me laisse pas entraîner par ce tourbillon d'émotivité, de réactivité qui peut surgir avec ce frère qui roule très vite, alors je vais pouvoir aborder cette situation autrement. Et moi, ce qui m'est venu une fois, c'est « Eh ben dis donc, il doit être drôlement pressé, ce frère, pour prendre autant de risques. Hein. » Et tout d'un coup, je suis uni avec lui, parce qu'un frère, il fait partie de ma famille. Hein. Quand on me fait une queue de poisson, ou quand il y a quelqu'un qui veut déboîter et qu'il est tout proche de moi, est-ce que j'ai la tentation d'accélérer pour dire « Tu passeras derrière, mon cher ?» Enfin, il n'est pas très cher à ce moment-là. Voilà, tu seras puni pour ta témérité. Ou alors, je vais voir qu'il veut passer. Si je suis relaxé intérieurement, et ça c'est important, je vais ralentir un peu en lui disant « Après toi, je t'en prie. » Et là, nous sommes unis. Et en vérité, c'est valable à la queue du supermarché. Lorsque, sans faire attention, ben, j'ai cogné mon caddie dans les tibias ou les mollets de quelqu'un, ou quelqu'un me cogne les mollets ou les tibias, me fait mal, me marche sur le pied. Voilà, est-ce que je vais réagir avec une certaine patience, une certaine, peut-être même compassion ou indulgence, mais tous ces termes-là sont des autres mots pour amour, en fait. Hein. C'est des expressions de l'amour à l'échelle humaine, peut-être. Ou est-ce que je vais incendier l'eau du regard ? Vous pouvez pas faire attention, non ? Bon, je caricature. Hein. Et voilà, est-ce que lorsque je pose mes achats sur le tapis roulant, est-ce que je regarde la caissière quand je dis bonjour, est-ce que je saisis l'humanité qu'il y a dans cet échange, ou est-ce que je suis dans mes pensées en train de dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, les yaourts, le sel, le rouleau de sopalin, et puis est-ce que je ne reste pas complètement déconnecté de cet être humain qui est en face de moi, qui fait aussi son travail, qui rend aussi un service. Voilà. Donc, il y a cette dualité à tout moment dans comment je vis ma vie, à chaque seconde de ma vie, et comment j'interprète ce qui se passe au moment où ça se passe. Et c'est le sujet de ce jour. Bien sûr, on peut parler de bien d'autres choses, mais en particulier, j'introduis ça de cette manière pour rappeler que chaque seconde de notre vie, nous faisons des choix. Et nous pouvons choisir la séparation en attaquant, en nous défendant, en jugeant, en insultant, ou nous pouvons choisir l'unité en aimant, hein, et avec toutes les autres possibilités d'aimer que sont les qualités tranquilles. Tout à l'heure, j'ai dit, quand je suis relaxé, alors je laisse passer le frère, hein, parce qu'il a mis son clignotant, il me dit... S'il te plaît, est-ce que je pourrais passer ? Moi, j'entends comme ça. Mais si j'ai l'ego qui écoute, alors je vais entendre « Laisse-moi passer !» Et je vais répondre aussi à cette exigence-là. Mais en fait, je crée ça. Je crée cette exigence et je crée cette demande polie. Et en fonction de ce que je vais créer, je vais répondre aussi de cette manière ou d'une autre. Alors, quand je suis relaxé, et je remarque que pour moi, c'est plus facile aussi, quand je ne suis pas en retard à mon rendez-vous. Voilà. Parfois, je suis en vélo, et puis quelqu'un s'est garé sur la piste cyclable. Il a osé faire ça. Et quand je suis pressé, ça ne passe pas très bien. Je sens que je juge. Et quand je suis relaxé, je me dis, il est sur la piste cyclable, ben je le double et puis je reviens sur la piste cyclable. Tout est simple et correct. Donc pourquoi ça change en fonction de mon état de relaxation ? Quand je suis relaxé, je suis détendu. Et quand je ne suis pas détendu, je suis tendu et donc... l'ego représente une partie tendue en nous. Je ne peux pas être indulgent et tendu. Je ne peux pas être patient et tendu. Quand je suis tendu, je suis impatient. Et quand je suis tendu, je ne suis pas indulgent, je juge. Donc c'est vraiment un état de détente et qui est propre au sentiment d'amour absolu. L'amour absolu, c'est celui qui est représenté par Dieu, mais à notre échelle, on a aussi l'amour relatif, c'est-à-dire qui pose parfois certaines conditions. Et notre vie sur Terre, peut-être, est un voyage entre ce relatif-là et cet absolu pour nous éveiller à cet amour-là. Donc, quand je ne suis pas relaxé, déjà, je peux remarquer que je ne suis pas relaxé et remarquer que n'étant pas relaxé, alors j'ai tendance à m'opposer à l'autre plutôt qu'à être un avec l'autre. Et la suite logique, c'est, tiens, pourquoi je ne pourrais pas me détendre malgré les 5 minutes de retard ou les 10 minutes de retard que j'ai à mon rendez-vous? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment présent? Voilà. Et si je prends 30 secondes de plus pour laisser passer ce frère, est-ce que ça va changer quelque chose? Que mon retard est de 5 minutes 30. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai le choix. C'est un moment crucial où je peux dire, je reste dans ma tension, où je choisis de revenir à l'intérieur, dans la partie détendue de moi, qui n'est pas séparée ni de l'autre, ni des autres, et ni de la planète, ni de l'univers, ni de rien du tout. Voilà, donc il y a certains ouvrages que j'ai ici, j'en ai amené juste 4 près de moi, sur lesquels on peut s'appuyer, mais pas obligatoirement, desquels on peut citer des passages qui nous ont marqués, mais pas obligatoirement, parce que la vie est aussi un grand ouvrage qui est rempli d'enseignements, qui nous sert à nous améliorer. Pourquoi nous vivons, pourquoi nous naissons, pourquoi nous vivons et pourquoi nous mourons, même si c'est illusoire d'après la non-dualité, c'est pas réel. Eh bien, en tant que ceux qui croyons vivre dans un corps, nous faisons un chemin apparent pour améliorer qui nous sommes, pour aller vers l'amour absolu qui est l'éveil à notre vraie nature. Donc, on s'améliore avec des choix. Quand j'ai fait le choix de quelqu'un qui m'énerve, je sors mon revolver et je le tue.
Depuis la nuit des temps.
Je fais écho, parce qu'on n'entend pas. Ouais. Alors, je vais finir cette vie, mon corps va arrêter de fonctionner, je vais choisir de revenir avec un ego dans un autre corps, et puis je vais tirer les conséquences de mes choix. Quels choix m'ont rendu heureux? Quels choix m'ont rendu tendu, malheureux? Et à ce moment-là, je vais laisser de côté les choix qui ne m'ont pas rendu heureux, ou peut-être j'ai besoin de refaire quelques choix comme ça pour en être vraiment certain. Et c'est ce qu'on fait dans la réincarnation. Et ainsi, l'humanité s'améliore. Mais tout ça, c'est un jeu, bien sûr. Le jeu de l'incarnation. Et donc, il y a apparemment un sens à ça, qui dit que nous avons le libre arbitre. Et le libre arbitre, ça se résume en 3 mots, pour moi. Tout est permis. Sur Terre, il paraît que c'est une des seules ou rares planètes qui ont un degré de libre arbitre tel où tout est permis. Ça veut dire que je peux créer sur Terre le royaume des cieux, un océan d'amour, où je peux créer sur Terre un enfer absolu, et ces deux-là sont autorisés. Et en fonction de ce que je vais choisir, avec mes intentions, mes actes aussi, mes choix, alors je vais vivre cet enfer absolu, où je vais vivre ce paradis, ce royaume des cieux. Voilà, donc les livres qui se proposent de nous guider pas à pas, en nous prenant la main, pour aller progressivement d'une perception séparée à une perception une. C'est un cours en miracle, un gros livre de 1300 pages avec 365 leçons pour la vie de tous les jours, pour mettre en pratique 700 pages de théorie qui parle de cette non-dualité d'une manière très détaillée, hein, avec force détail sur l'ego et force détail sur la partie juste de notre esprit. Un autre qui m'a beaucoup beaucoup marqué, l'Évangile selon Jésus de Paul Ferrini, au niveau, je dirais, rédaction, au niveau des formulations, il est un peu plus actuel. Voilà, puis en lui-même, c'est aussi un ouvrage canalisé, hein, de Jésus. Alors c'est Paul Ferrini, hein, qui a canalisé ça, et puis le Christ revient, il dit sa vérité, sous-titré Les lettres du Christ, donc un gros livre que j'ai lu en vraiment quelques jours sans pouvoir m'arrêter pratiquement, à peu près 500 pages, et écrit par une femme sud-africaine anonyme, qui a été formée pendant 40 ans ou 50 ans par Jésus, en esprit, dont l'esprit a été nettoyé pour la rendre prête à transmettre les messages de Jésus sans dire qui elle est, pour qu'on ne confonde pas le message et le messager. Hein. Et donc, c'est assez fabuleux. Hein. Il y a beaucoup de choses assez inédites sur la vie de Jésus dans le désert, etc. Ça me parle beaucoup en tout cas. Et puis un livre qui est une sorte de marchepied ou tremplin pour aborder facilement un cours en miracle lorsque l'abord d'un cours en miracle est difficile. Parfois, c'est fluide, hein, de lire un cours en miracle parce que ça peut être extrêmement parlant et très vite. Parfois, il peut y avoir des résistances. Parfois, certains le prennent et le jettent par la fenêtre ou le mettent à la poubelle. Si, si, ça arrive. Voilà. Moi, je l'ai lu jusqu'à la page 150. Je l'ai posé pendant un an avant de le reprendre. Et de le terminer et de pratiquer toutes les leçons. Donc, voilà, il peut y avoir des résistances, c'est parfait. Donc un livre pour aborder ça, pour qu'on peut aussi considérer comme un apéritif. L'apéritif, c'est ce qui précède le plat, ce qui donne envie de passer à table. Hein, peut-être la comparaison a ses limites quand même.
C'était mon cas.
Ouais, c'était le cas d'Elena. Elle a commencé avec « Et l'univers disparaîtra ». Voilà, « Et l'univers disparaîtra » a pour sujet majeur un cours en miracle, mais l'introduit d'une manière avec un scénario, une histoire tout à fait particulière. Donc Gary Renard qui a écrit celui-là, plus deux autres qui suivent. Voilà. Donc ces livres, on peut les consulter sur place, on peut aussi, si vous les avez lus, en parler. Ça parle beaucoup du véritable pardon, qui est avant tout une façon de regarder différemment les choses. Il ne s'agit pas du pardon du monde, hein, celui qui dit « tu as fauté, tu es coupable, mais moi je suis tellement gentil que je daigne... te pardonner parce que tu es petit, moi je suis grand. Et donc, moi j'en sais tellement que c'est facile pour moi de pardonner. Et toi, tu ne sais rien. En vérité, c'est celui qui pardonne qui ne sait rien, parce qu'il a accepté que la vastitude de laquelle il provient, bah, pour l'instant, il l'a oublié. Et on va parler du rappel, hein, dans ces échanges-là. Voilà, je m'arrête là. Je vais poser le micro quelque part au milieu de la table et puis libre à vous de lever la main pour demander la parole. Pour le demander, ne parlez pas hors micro, sinon on ne vous entendra pas dans l'enregistrement.
Merci Avi. Bonjour les amis, je suis Raymonde. Et je te remercie d'avoir dit que ce groupe n'est ni sérieux ni grave. Moi, je ressens beaucoup de joie là, ici, aujourd'hui. Et moi-même, je me sens très joyeuse. Alors, je suis venue aujourd'hui pour dire merci. Je suis dans la gratitude. Je dis merci tellement souvent dans une journée, aussi souvent que je le peux. Et j'avais très envie de venir ici parce que je suis maintenant étudiante du cours en miracle depuis environ 6-7 ans, 7-8 ans même. Et voilà, quoi, c'est juste un cadeau merveilleux. Et le fait de l'avoir mis en pratique m'a sauvé la vie physique, hein, j'ai envie de dire, dans mon corps physique. Et depuis que je suis dans la guérison, les miracles sont là, en fait, au quotidien. Et j'ai envie de témoigner du fait que le miracle est naturel, il est quotidien, et que s'il n'est pas empêché dans sa libre circulation, il est là. En fait, j'avais oublié tout ça, et l'origine de chacun d'entre nous, qui nous sommes amour, nous sommes amour, nous venons de l'amour, et aujourd'hui, pour moi, c'est très juste de, comment dirais-je, de le manifester. Alors, tu as pris des exemples à vie tout à l'heure par rapport au temps, par rapport au fait d'être pressé. Il m'arrive de penser que je suis en retard à un rendez-vous, mais ça n'a plus d'importance pour moi, le temps. Être à l'heure ou être en retard, ça n'a plus d'importance, mais quand j'ai l'impression d'être en retard et que, par exemple, je me trouve dans le métro, j'arrive à une station et je ne sais pas très bien où je vais, c'est la première fois, je serais tentée de sortir pour gagner du temps sans aller voir le plan, mais en fait l'Esprit Saint me dit c'est parce que tu es pressé ou c'est parce que tu es en retard que tu vas te donner le temps d'aller regarder le plan, et peu importe ce qui adviendra en fait. Et effectivement, c'est parce que je suis pressée que je vais me donner encore plus de temps. Et ce don-là est tellement, tellement, tellement précieux. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et puis l'autre chose est que la volonté déchaînée m'a quittée. Aujourd'hui, je suis au service de la vie, je suis dans le partage. Et j'ai l'impression que je ne prends plus de décision, que les choses se déplient en fait, comme ça, devant moi, la vie, j'ai qu'à ouvrir les bras, et ça arrive, ça vient me rencontrer, et je dis oui, et je dis oui, et je dis oui, et je dis oui, c'est ça, c'est juste ça ce que j'ai à faire. Et en fait, j'avais oublié que c'était comme ça, il a fallu la maladie pour me dire, « Eh oh, toi là, reviens, le message, c'est pas ça, quoi, c'est autre chose, et je veux que tu incarnes ça, quoi, et je veux que tu partages ça, et voilà, et aujourd'hui, je suis tellement, tellement heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Si c'était rien que pour ça, en fait, ce retour à l'amour, revoir que la vie peut être tellement simple, tellement fluide, tellement facile. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, hein. C'est vrai que parfois, je fais obstruction. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment expérimenté l'Esprit Saint pour savoir que j'ai le choix d'instant en instant d'être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu. Et je peux renouveler mon choix d'instant en instant ou en changer. Et c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. On a tous cette possibilité-là. Est-ce que je me sens bien là où je suis? J'ai qu'une chose à faire, en fait, c'est d'être heureuse dans cet instant-là. Il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de réel. La seconde d'avant n'existe plus, celle d'après n'existe plus. Qu'est-ce que je me pollue la vie à m'inquiéter sur quelque chose d'irréel? La seule réalité, c'est cette seconde présente, et elle est très joyeuse. On est là, assis dans un cadre magnifique, entre amis, avec plein de belles choses, plein de bonnes choses. Il y a des bougies, il y a des lumières, il y a des gens souriants. Enfin, c'est ça le paradis. Mais c'est ça la simplicité, je crois. Je crois que c'est ça. On va chercher des choses tellement compliquées. Quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai plus ça, je serai heureuse. Quand je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Stop ! Là où je suis, j'ai juste à y être totalement. Rien d'autre, c'est parfait. J'ai vécu le cancer. Quand j'y étais, c'était parfait. C'était là où j'avais à être. Aujourd'hui, je suis guérie. C'est parfait. C'est là où j'ai à être. Qu'est-ce que je fais de cette guérison? Je la partage maintenant. Voilà. Et c'est ça le message. Quoi qu'on traverse, ça peut être vécu dans la haine, dans la peur, dans la joie, dans le doute, dans la tension, dans la détention, dans la surtension, dans tout ce qu'on veut. On a le choix. On a le choix. Ça peut aussi être vécu dans la relax, dans la liberté, dans l'accueil, dans... Oh, voilà, ça peut être tellement simple. Mais j'ai oublié souvent que ça peut être tellement simple. Et... parfois, oui, j'ai besoin de croire que je suis tellement importante et que j'ai besoin de compliquer ma vie. Plus elle est compliquée, plus je crois que je suis importante. En fait, aujourd'hui, rien n'est grave. Et juste l'important, c'est d'être là où je suis. Voilà. Aujourd'hui, je veux rien de plus, je veux rien d'autre. Ce qui est, est. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix. Alors moi je dis un grand merci au Courant Miracle, c'est vraiment un cadeau que d'avoir découvert ce livre. Alors moi je l'ai découvert il y a 4 ans avant, il y a 7-8 ans, je l'ai eu en main, j'ai regardé ces pages, une de mes amies me l'avait recommandé, je l'ai ouvert, je l'ai refermé, je l'ai laissé 4 années sur l'étagère de ma bibliothèque, 4 années, et il est arrivé, ben voilà, il y a 8 ans maintenant. Et je ne l'ai plus lâché. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne le lâche plus. En fait, c'est simple. C'est simple. On l'ouvre à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça ne parle que d'une chose. Ça ne parle que d'amour. C'est simple, le Courant Miracle. Il n'y a pas besoin de préambule. C'est que de l'amour. Ça ne parle que de ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand bonheur. Je suis très, très heureuse que ces groupes existent, même si je ne viens pas très souvent. Parce que le Courant Miracle, ça y est, je veux dire, il m'appartient. Je l'ai fait mien, il est en moi, il est là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour partager avec vous qui êtes présents cet instant de bonheur et de joie, pour me souvenir de ce que j'avais oublié, pour me souvenir de ce rappel, en fait, pour dire merci. Et puis pour vous, auditeurs qui n'êtes pas avec nous là aujourd'hui, je veux aussi partager cet instant avec vous. J'ai traversé une période où je ne pouvais pas venir et où j'étais tellement heureuse que ce groupe enregistre les messages que j'ai pu écouter et qui m'ont donné vraiment beaucoup de pêche, qui m'ont reliée en fait au Saint-Esprit. Voilà, donc moi je me sens reliée, je me sens aimée, je me laisse aimer, je m'aime et même je me choisis avec le Saint-Esprit. Voilà, voilà. Merci infiniment.
On va peut-être faire un tour de table ainsi. Bon, je suis assise à côté de Raymonde et je vois ses paroles, où j'entends des « oui ». Des merci, et ça frissonne en moi parce que ça fait écho évidemment à ce que je vis. Alors, la non-dualité au quotidien, dans notre quotidien, dans notre vie pratique, je partirai de cette phrase que j'ai tirée d'un panier, donc qui font partie des leçons d'un Courant Miracle. Cet instant est le seul temps qui soit. Et ça me parle évidemment parce que c'est ce qui m'anime peut-être plus particulièrement encore avec la période que j'ai traversée de Noël et le jour de l'an, ces vœux que l'on formule traditionnellement. Et comme j'ai tendance à remettre un peu tout en question par rapport aux conventions, par rapport à ce que l'on vit, la période de Noël, qu'est-ce que c'est pour moi ? Là, maintenant. Et puis, les vœux. Ça m'a beaucoup interrogée cette année. Mes vœux traditionnels, où on se sent quelque part obligé. J'avais pas envie de vivre ça de cette manière. Souhaiter la bonne année, c'est quelque part se projeter sur le futur, et c'était pour moi, ça résonnait pas avec l'instant présent. Vivre l'instant présent et non pas se projeter sur une année. Et puis j'ai découvert que c'était un moment peut-être privilégié pour certains. Que de se relier aux autres. Cette bonne année, c'est une prière, un souhait profond. Je prie pour vous, pour qu'elle soit bonne. Il suffit de demander pour recevoir. Je prie pour vous tous, et comme je fais partie de ce grand tout, je n'ai pas à me soucier de moi. Dans ce grand corps que nous formons, je prie pour que la bonté jaillisse. Cela soit.
Bonsoir à tous. Je vais commencer par dire merci, merci et merci. Comprendra pourquoi je dis autant merci. Sachez que toutes les personnes qui sont autour de moi ou qui sont en train de nous écouter n'en prennent peut-être pas conscience, mais ils sont bénis. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, il y a une chanson que je chante régulièrement chaque journée, je vais vous la chanter, elle est assez courte. C'est oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai la nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Il y a trois personnes qui sont passées juste avant moi et je remercie pour leur témoignage. Et je vais faire également mon témoignage. Et les propos qui vont sortir de ma bouche sont à critiquer, sont à vérifier et surtout à expérimenter. Et ce que je vais vous dire là ne sorte pas d'un livre, même si j'ai lu des livres. Mais ce que je vais dire là, c'est ce que je vis, tout simplement, avec le cœur et non avec le mental. On parle de la non-dualité. Et je vis cette expérience de cet amour, du un. Du je suis, du je suis rien et je suis tout. je ne sais pas. Pour vous donner un exemple, je vais à la FNAC, sur le rayon développement personnel, psychologie, religion. Par le passé, quand j'étais à la recherche, je ne cessais de lire ou d'acheter des bouquins. Et j'en avais plein à la maison. Et il y a quelques semaines, je vais dans ce rayon et je ne ressentais pas du tout le besoin d'acheter puisque j'étais. J'étais ces auteurs, j'étais ce qui est indiqué. Je sais. Moi-même, des fois, je ne comprends pas non plus. C'est-à-dire que les livres qui sont autour de moi, là, à l'instant, je ne ressens pas le besoin de lire puisque c'est déjà en moi. Je suis déjà ce livre. Donc, je ne ressens pas le besoin de lire ces livres. On parle d'unité, d'amour. Et pour moi, pour Paul, si on veut éviter de lire un livre, si on veut éviter, quelle que soit la pratique thérapeutique ou spirituelle, que ce soit une méditation, qigong, yoga, et ainsi de suite, pour moi, il y a un raccourci. C'est juste de savoir qui nous sommes véritablement à l'intérieur. C'est pas le « je suis Paul, je suis magnétiseur, j'ai 33 ans ». Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Moi, en tout cas, c'est personnel, je l'ai découvert dans la solitude et dans l'ennui. La solitude et l'ennui, elle peut générer une dépression, mais aussi elle peut générer aussi, on va dire, une forme d'éveil. Je dirais, quand vous savez exactement qui vous êtes à l'intérieur de vous, exactement, il n'y a pas de séparation puisque vous êtes un. Il n'y a pas de distance entre l'objet et le sujet, puisque le chercheur est le cherché. Mais tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez sans cesse dans la recherche, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sans cesse en train de lire un livre, sans cesse en train de faire une pratique, sans cesse, sans cesse. Et on se rend compte, expérimenté, le jour où vous commencez à diminuer ou à abandonner totalement toute lecture ou toute pratique, comme par hasard, on commence à lâcher prise, on commence à accepter ce qui vient. Et ce qu'on recherchait est là. Et on se dit, ah, j'ai recherché sans cesse, sans cesse, sans cesse pendant des années. En fin de compte, c'était déjà là. Pourquoi vouloir chercher l'amour, la paix, l'énergie, alors que vous êtes ça ? Après, il y a une différence entre le savoir et le ressentir et le vivre. En fait, les choses ne s'expliquent pas. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de définition à un mot. En fait, on me dit, on parle d'illusion. Exactement, je confirme. La vie est une illusion. En fait, la vie est un rêve. La vie est un rêve. En fait, on dit que la vie est une illusion, ou moi je dis que la vie est un rêve, dans le sens où nous avons la possibilité, en fait, de créer notre rêve. J'assistais régulièrement à des satsangs, à des séminaires sur tout ce qui est éveil. Et je n'y allais pas pour comprendre ou pour rechercher quelque chose, mais j'y allais pour comprendre ce que je vivais en fait au quotidien. Je dis merci parce que je vis révélation sur révélation. Et j'ai l'impression, on parlait de changement tout à l'heure, d'instant à instant. Et j'ai l'impression c'est même pas une impression, c'est ce que je vis au quotidien, d'avoir un discours différent régulièrement. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je cautionnais, cet amour, cette non-dualité. Je disais oui, le mal et le bien n'existent pas, la souffrance et la joie. J'ai toujours le même discours, mais aujourd'hui, depuis ce matin, je vais au-delà. C'est-à-dire que j'étais déjà totalement détaché. Je suis déjà totalement détaché, en fait, des choses. Mais aujourd'hui, encore beaucoup plus. C'est-à-dire que dualité ou non-dualité, ça me passe au-delà. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, je danse chaque instant. J'accueille instant après instant et je danse en fait l'instant. Donc en fin de compte, qu'il y ait une souffrance ou une joie, c'est pareil. Il y a juste pour moi aujourd'hui, à danser tout simplement. Danser instant après instant. Oui, je dirais ne pas chercher à avoir, à faire, à donner ou même à être. C'est juste danser, c'est juste être.
C'est juste la vie qui passe à travers toi.
En fait, c'est vous laisser guider, vous laisser abandonner, vous laisser bercer, vous laisser. Faites confiance, en fait. Tout est amour, en fait. Tout est amour, en fait. En fait, si vous voulez, la souffrance comme la joie, c'est pareil. C'est vrai que ça ne forme que un. Mais même si on a cette expérience de l'unité, quoi qu'il arrive, il y aura toujours de la souffrance, de la peur, de l'anxiété, des phobies, etc., etc. C'est juste qu'en fait, que, à titre personnel, juste qu'on va, nos yeux vont changer. On aura une nouvelle perception de la chose. Mais pour moi, d'expérience, la peur, la phobie, l'anxiété, tous les traumatismes, toutes les blessures, vous permet en fait de découvrir qui vous êtes réellement, en fait. C'est pas, oui, les gens, dès qu'ils voient une souffrance, ou une peur, ils commencent à la fuir, ils veulent la contourner, ils veulent la combattre. C'est justement l'attitude contraire qu'il faut faire, c'est l'embrasser, en fait. L'ennemi est un ami. L'obscurité et la luminosité. Ça ne forme que un. Ouais, voilà. Donc je dis ben, merci, merci, merci pour ce que je vis au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.
J'ai un truc, tu sais, en fait, quand Avi dit que qu'est-ce que je fais, je le laisse passer ou je le laisse pas passer, ça dépend comment je suis, tout ça. Moi, j'ai décidé un jour, bien avant de lire le cours au miracle, j'ai décidé un jour, quoi qu'il arrive, laisser la personne passer, n'importe quelle personne. Ce n'est pas telle ou telle parce qu'elle a une jolie robe ou parce qu'elle a un enfant ou une femme ou n'importe quoi. C'est n'importe quelle personne qui est vue passer devant moi, je m'arrête tout de suite. Et figure-toi, la première fois que je l'ai fait, il commençait à s'arrêter, il me laissait passer. Je lui dis, mince,
C'est quoi cette histoire? Parce que je ne connaissais pas ni cours en miracle. Tu vois, je savais qu'on avait un lien, mais unicité, je ne savais pas. Je savais que les gens avaient l'air bizarres et on dirait qu'on se connaissait. Voilà, comme ça, les gens avaient l'air bizarres. Par exemple, ma maman et mon frère ont l'air très bizarres. Mais maintenant, je sais que c'est moi. Et moi, je soupçonnais que c'était moi. Mais ça, avant de lire le livre, je ne le savais pas. Donc, ça date. Et je le fais encore aujourd'hui. Mais quelquefois, je l'oublie, par exemple. Et je commence à foncer, parce que je marche vite. Je commence à foncer. Il commence à me foncer dessus. Ah, je dis, mince, le secret, c'est laisser passer. Tu vas voir, c'est hyper simple. Tu ne fais pas, c'est comme s'il n'y a pas de distinction. C'est hyper simple. À chaque personne, tu fais comme un automate. Je fais comme un automate, schlac, je m'arrête. Et à chaque fois, ah, excusez-moi, ils sont tous gentils. Les gens sont très gentils. Je dis, mince, mais c'est incroyable ça. C'est moi qui ai décidé de le faire. Et voilà qu'ils prennent le vedette. Voilà, c'est tout.
Voilà, donc tu sais ce que tu as à faire. Tu laisses passer tout le monde.
Vous avez pu remarquer que vous qui êtes là autour de la table, et puis aussi vous qui écoutez, que nous avons tous des perceptions extrêmement différentes et que ce genre de groupe et de partage suscite des impressions chez les uns et les autres qui sont extrêmement diverses. Certains vont trouver que c'est trop intellectuel, d'autres que c'est pas assez. Certains trouvent que l'un parle trop, d'autres parlent pas assez, etc. Et en fait, c'est vous qui êtes concerné, là, dans l'instant, tout de suite. Et il y a un silence qui se passe, qui est en train de se passer. Et le silence, il est toujours là, même au milieu du bruit. J'ai souvent partagé qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais chez Marianne Dubois un jour, à Viarmes, au nord de Paris. Et elle me dit, Sylvain, est-ce que tu veux qu'on écoute? Elle canonisait Jésus à l'époque, elle avait écrit Rencontre solaire et autres. Et elle me dit, est-ce que tu veux qu'on écoute quelque chose? J'ai dit, d'accord, Marianne. Et on a fait silence. Il est venu une phrase qui est la suivante et qui est très pratique justement pour notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, puisqu'on vit le quotidien, on vit l'instant présent. Au lieu d'essayer d'attirer les autres là où tu es, rejoins-les plutôt là où ils sont avec ton cœur. Au lieu d'essayer d'attirer les autres là où tu es, dans ta spiritualité, dans ta vision, très bien, ça existe, c'est ton affaire, c'est parfaitement à sa place. Rejoins-les plutôt là où ils sont avec ton cœur. Et ça, c'est le cadeau. Et le cours en miracle parle beaucoup de la relation. Il emploie au singulier le cours en miracle. Il ne dit pas tes relations, c'est ta relation. Parce qu'on a une relation avec tout, avec 7 milliards d'individus sur cette planète, avec aussi d'autres individus, d'autres êtres, intra ou extraterrestres peut-être. On a des relations avec des animaux, avec des plantes, des arbres, etc., des tas de choses, énormément de choses. C'est toujours une relation, mais c'est une relation. Parce qu'évidemment, nous avons choisi une expérience duelle, comme si on se met à l'extérieur de l'un, de l'absolu, de l'unité absolue de toute chose. Quelle merveille, parce que ça nous permet de exprimer quelque chose. Donc d'écouter un désir de relation. Et comme dit le courant miracle, un peu vers la fin du texte, on ne choisit jamais seul. Donc on a un désir de relation, et on choisit avec quelque chose. Quand on dit qu'on ne choisit jamais seul, on choisit soit avec l'ego, c'est-à-dire le sens de séparation, la peur, le besoin de se protéger, d'attaquer, de se défendre, de se sécuriser, de juger, parce que l'ego n'est que jugement. C'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il semble exister. C'est par le jugement, évidemment. Une autre façon aussi, c'est l'amour, c'est de voir avec l'unité de toutes choses. Donc vous qui écoutez, la relation que j'ai avec vous, elle est infinie, elle est ce que le cours appelle une relation sainte. Elle est relation sainte parce que je le désire, je le choisis. Donc je choisis avec l'amour et non pas avec la peur. Là, tout de suite, c'est maintenant, c'est pratique. D'ailleurs, dans les témoignages qu'on a entendus, finalement, ça revient toujours à ça. Dans l'instant, je choisis une relation amoureuse. Et c'est très pratique, parce que c'est de tout instant, dans n'importe quelle situation. On ne choisit jamais seul. Il est vrai que pour la plupart de nos frères et sœurs, les choix que nous pouvons observer, soit en nous-mêmes, soit chez les autres, c'est en général des choix faits à partir de la peur et de la culpabilité. C'est entre guillemets normal puisqu'on a choisi une expérience duelle, donc il n'y a rien de mal. Et là, on commence à aller à la racine de notre aventure ici, sur cette planète, parce qu'après tout, on est là. Quand il dit « on est là, qui est là ?» Évidemment, on est esprit, donc on imagine qu'on est là parce qu'on voit un corps et qu'on joue le jeu de s'imaginer être un corps, on n'est pas le corps. Mais le jeu est fait exprès, pour donner l'impression qu'on est le corps. C'est très très fort, c'est très bien fait. En ce sens, on est vraiment 7 milliards de frères et sœurs sur au même niveau. Même Jésus, quand il est venu il y a 2000 ans, c'était la même chose. Et quand des avatars ou des maîtres se réincarnent, c'est la même chose. On est humain, c'est-à-dire on n'est pas humain en vérité, mais on a l'apparence, l'expérience d'être humain. C'est une illusion, certes, mais en attendant, on l'a choisi. Très bien. Donc, au lieu d'essayer d'attirer l'autre, les autres là où je suis, dans mon niveau de conscience, ma vision, qu'est-ce qu'elle est ? Elle me réjouit peut-être. Je fais des expériences. J'ai beaucoup de choses à partager, certes. Mais avant ça, c'est vous. C'est la merveille que vous êtes que je veux voir, que je choisis de voir à chaque instant. Et donc vous m'émerveillez. Chaque être que nous rencontrons est une merveille. Il s'insère dans cette tapisserie divine, nous sommes 7 milliards, il s'insère dans un rôle parfait, un rôle qui est nécessaire à l'ensemble, quel que soit le rôle. George Bush, les dirigeants de Monsanto, qui on veut, Mère Teresa, Nelson Mandela, ou un petit enfant dans le Sahel, qui vous voulez. C'est toujours la source qui est là, c'est toujours l'amour, c'est toujours Dieu, c'est toujours l'un, la vie, l'univers. C'est le je suis qui est là. Donc à chaque instant, dans la pratique courante de la vie, je choisis de répondre à qui vous êtes et de vous rejoindre là où vous êtes avec mon cœur. Et pour moi, c'est un cadeau incroyable, parce que c'est uniquement comme ça que je retrouve qui je suis, que je fais concrètement sur cette planète, l'expérience amoureuse de qui je suis et de qui nous sommes. C'est ensemble que nous faisons cela. C'est par nos relations amoureuses, nos relations d'accueil mutuel. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit « ton frère est ton sauveur ». Ton frère ou ta sœur, parce que s'il emploie le mot « frère », il te permet à chaque fois de rechoisir ce que tu veux vraiment. Et on revient à cette notion de désir. Et le désir, c'est la première des choses. Sans désir, il n'y a rien. Sans désir, il n'y a pas de planète. Sans désir, il n'y a pas d'incarnation. Même si c'est imaginé, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu de dualité. Donc, il y a un désir de jeu de dualité. Et ce désir est divin. Parce qu'à l'origine, il n'y a que le divin, il n'y a que qui nous sommes. Donc ce jeu de la dualité n'est qu'un jeu, il n'a rien de mal. Il est simplement l'expression de l'infini de qui nous sommes. Et si nous n'étions pas qui nous sommes, jeu innocent, jeu merveilleux, incroyable, qui permet la création d'un univers gigantesque, d'une boîte à sable dans laquelle on joue les uns les autres, incroyablement bien faite, merveilleuse, irréelle, certes, transitoire, temporaire, dans un temps qui n'existe pas, certes, mais une occasion d'expérimenter l'amour avec un véhicule, à travers un véhicule physique. Et comme dit le courant miracle, le corps est un véhicule de communication, c'est un moyen de communication. On peut communiquer la peur, on peut communiquer l'amour. Les premières leçons du cours nous parlent de ça, en disant, regardez autour de vous, tout ce que vous voyez n'a pas de sens, c'est vous qui avez donné un sens à ce qui est là. Mais très rapidement, dans les premières leçons, tout de suite, il n'y a pas de pensée neutre. Les pensées, puisque nous sommes créateurs, nous sommes esprits, donc il n'y a pas de pensée neutre. Les pensées ont toujours un effet. Et puis, par exemple, la leçon du jour, qui est la leçon aujourd'hui 18 janvier, pour ceux qui commencent le 1er janvier, puisque je l'ai regardé ce matin, c'est pour ça que je ne me rappelais pas, mais j'ai vu ça. C'est « Je ne suis pas seul à expérimenter mes pensées ». C'est-à-dire que quand j'ai des pensées, puisque nous sommes un, tout le monde expérimente comme moi. Donc quand j'ai des pensées de haine ou de manque d'amour, tout le monde expérimente. Et quand j'en ai pensé d'amour, tout le monde expérimente. Donc là, il y a quelque chose qui peut être très choquant. Seulement, comme dit le courant miracle, le manque d'amour n'existe pas. La séparation ne s'est jamais produite. C'est une illusion. Donc, quand j'étends ce qui n'existe pas, je multiplie le rien par des millions de fois, mais c'est toujours rien. Ça n'a pas d'effet réel. Ça a un effet apparent. Ça crée des guerres, ça crée des luttes, ça crée des cris de douleur, tout ça imaginé. Certes, c'est pas nié, bien sûr. Mais quand je me mets à exprimer l'amour, alors là, ça a un effet d'extension, ça a un effet de création. C'est pour ça que le cours miracle est très spécifique en disant créer dans le monde divin, c'est pas projeter à l'extérieur. Créer, c'est s'étendre. Donc quand je choisis l'amour, j'étends l'amour. Quand je choisis la peur, j'étends la peur, mais j'étends rien. J'étends ce qui n'existe pas. Alors évidemment, ce que je suis en train de dire peut paraître un peu intellectuel peut-être. De toute façon, quand on parle, c'est les mots, c'est intellectuel. Mais je ne suis pas intellectuel et vous non plus. L'esprit n'est pas intellectuel, l'esprit n'est pas une forme, l'esprit c'est ce qui est. C'est au-delà de tout concept. C'est l'existence, c'est Dieu, c'est la vie, c'est l'univers. C'est ce que vous voulez comme dénomination. Donc, au lieu d'essayer de vous attirer là où je suis, vous me faites le cadeau de choisir de vous rejoindre là où vous êtes avec mon cœur. Où vous êtes, je ne sais pas. Mais je n'ai qu'un choix. Une possibilité, c'est évidemment à partir de l'intérieur de moi-même. Parce que comme dit le courant miracle, tout ce que je vois, c'est le reflet de mes croyances, de mes pensées, de ma vision intérieure. Et oui, je suis comme vous, nous sommes divins, nous sommes ce que le cours appelle le Christ. Donc nous créons complètement notre expérience. Et c'est pour ça qu'on passe inévitablement par une étape qui consiste à totalement prendre la pleine responsabilité de ce que nous expérimentons. Il ne peut pas en être autrement à cause de qui on est. On peut dire que Dieu s'expérimente lui-même, c'est une façon de parler, bien sûr. Le multiple, c'est un jeu de l'un qui s'imagine multiple à l'infini. Quelle merveille de pouvoir avoir des relations amoureuses dans cette illusion de séparation. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'étais à un Marmoutier, et puis Phoebe m'envoie un message, et à la fin du message, c'était un message, Phoebe m'avait dit, il me demande la permission de te parler. Et j'ai adoré la fin du message, je me rappelle que ça, c'était, à propos Sylvain, as-tu remarqué que tu n'existes pas? Et d'ailleurs, nous non plus. Mais n'est-il pas merveilleux de nous aimer et de communiquer ensemble? Voilà. Alors je vous remercie de votre présence. Merci.
Si quelqu'un veut passer avant moi, ce sera avec joie. Quelle que soit cette personne, inconditionnellement.
Merci, j'en profite pour passer juste après Sylvain. J'avais envie de parler d'une expérience que j'ai vécue cette semaine d'ailleurs. Et une expérience de non-dualité, justement. Alors, au début, j'étais dans la dualité, puis elle s'est transformée. J'étais dans le métro, j'allais donner mes cours. En fait, j'enseigne des pratiques corporelles autour du yoga, du qigong. Et j'avais un gros sac, comme d'habitude, et le métro était bondé. Et oh, je vois une place. Alors j'étais contente parce que j'allais pouvoir me reposer avant mes cours. Et juste en face de moi, il y avait une jeune femme, elle était plus jeune que moi, elle avait mis son pied sur le siège sur lequel je voulais m'asseoir. Alors, poliment mais avec de la colère à l'intérieur, je m'approche et puis je lui dis « s'il vous plaît ». Un peu brutalement, comme ça, un peu sèchement, je lui redis, puis elle bouge pas. J'avais toujours cette colère, et puis il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Moi, je me suis dit, soit je m'assois toujours avec cette colère, je lui écrase le pied contre le bord du métro, pour qu'elle comprenne que c'est pas elle qui a raison, quoi, que ça se fait pas. Soit, allez, ça va me fatiguer, je vais gâcher ma soirée, et puis j'en ai marre de fonctionner comme ça, quoi. Je vais choisir autre chose. Je vais l'accueillir, parce qu'après tout, elle a bien le droit de mettre son pied. Moi, ça m'est déjà arrivé de bouder, d'être un peu... Enfin, ça fait longtemps, mais... d'être un peu contre, comme ça, contre tout le monde, et donc de pas accueillir l'autre. Et donc, si moi, je réponds par un non-accueil, on va jamais s'en sortir. Donc, donc je me suis assise, et puis je lui ai laissé son pied. J'étais bien, je regardais, et puis je me suis dit, non, je vais pas la regarder quand même au début, c'était un peu dur. Puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je la regarderais pas après tout je la méprise si je la regarde pas, donc je vais la regarder. Peut-être pas avec un grand sourire, mais avec un visage d'accueil ouvert. Et donc, bah, elle fuyait un peu mon regard.
Tu as choisi ton plus beau regard. Attends, comme dans un film.
Et puis, nos regards ont fini par se croiser. Bon, elle finit par enlever son pied, évidemment.
Tu l'as apprivoisé? Vous êtes apprivoisé.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tension en moi. C'était, bon, elle aurait pu laisser son pied, je veux dire, après. Bon. Mais c'était chouette, quoi. J'ai bien aimé ce moment de métro. Et là, je me suis dit, c'est ça, être créatrice de sa vie, quoi. Sinon, je subis, je suis dans la tension, je nourris quelque chose que je connais tellement.
Tu pensais que c'était toi, cette femme?
Mais oui, bien sûr.
Et en fait, elle exprimait ce que tu réprimais en toi.
Oui, je me suis vue et je veux dire, je me suis dit, mais pourquoi je ne lui permettrais pas à cette femme d'être dans sa colère? Après tout, elle a bien le droit d'être dans sa colère.
En fait, tu as permis la colère, ta colère.
Oui, exactement.
Ah, oui, c'est ça.
Oui.
Tu as accepté ta colère et tu l'as accueillie.
Je l'ai transgée.
Du coup, ça a changé.
Voilà, je lui ai permis, si je peux dire, de se transformer. Quoi. Ah, et donc... Nous sommes transformés.
Non, vous êtes transformés, vous transfigurez en direct.
Quelque chose comme
en
ça.
En silence.
Oui, voilà. Ouais. Et
c'est donc... tout à fait, c'est ça.
Et donc, voilà, bah, j'ai envie d'être de plus en plus consciente dans mon quotidien, des petites choses comme ça. Pour...
Et tu dis bien, c'est ce que j'ai remarqué moi aussi, que même pour juger quelqu'un, même pour faire des... comment dire, jugements tout à fait qui paraissent bien pour une personne comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Juste, par exemple, juger cette dame qui a mis là. Ça paraît être juste, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, j'ai la flemme. Je suis décontractée et juger comme ça me prend trop d'énergie. Je sens que ça me prend trop d'énergie et j'abandonne parce que je n'ai pas envie.
Tu vois, je ne suis plus en phase.
Tu sais ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire par paresse le choix de l'amour.
Oui, non, 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 ce n'est pas la paresse, c'est décontraction.
C'est une sorte de... Allez, bon...
Non, 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 mon cerveau, il ne se met plus en route, tu vois. C'est plutôt ça, c'est quelque chose que petit à petit, le silence m'apprivoise, ou c'est moi qui apprivoise le silence, tu vois, et plus je reste dans cet état, et plus j'ai envie que ça continue, c'est comme un hypnotisme, tu vois, ça hypnotise un peu comme ça, hein. Comme le serpent, tu sais, voilà, et petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah... Après, quand il faut brutalement sortir, je vois ça, mais ça me dit rien. Il y a beaucoup de choses, même dans ce qui m'est arrivé au passé, tu vois, des trucs que mes parents ont fait, ou quelqu'un m'a fait, ou les parents, tous les trucs d'enfance, tu sais qu'on a plein de trucs à dire. Hein. Ces souvenirs sont là, mais l'énergie de ce que cela veut dire n'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne donne aucun effet au niveau de l'énergie, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, en fait, je trouve que c'est un bon chemin, parce que c'est ce que j'ai compris, hein. C'est que en fait, cette espèce de fatigue, quand tu dis, hein, en fait, c'est une décontraction.
C'est ça.
C'est ça. Et y a une tendresse, parce que l'amour, elle peut être. J'ai remarqué ce que ça voulait dire l'amour dans le silence, tu vois. C'est tout simplement la tendresse. On peut expliquer simple comme ça, parce que sinon l'amour ça fait. Et alors quand tu te trouves comme ça dans des contractions tendresse, tu peux pas d'un coup réagir et partir dire quelque chose à quelqu'un, parce que tu n'es pas prête pour ça, tu vois. C'est ça que j'ai vu, et ça m'est aussi arrivé. Justement, hier, ça m'est arrivé aussi. Comme toi, des trucs qui t'ont arrivé juste avant, moi aussi, il y a des trucs qui sont arrivés juste avant. Et toi aussi, le pied était posé il n'y a pas très longtemps. C'est rigolo. On s'est tous préparés quand même, hein, ce rendez-vous.
Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire avant moi, il n'y a aucun problème. Hein, on est là, on a du temps. Et tout à l'heure, il m'est venu cette phrase, ce qui nous relie, c'est ce qui nous relie. C'est le fait que nous sommes un. Ce qui nous relie aujourd'hui, et avez-vous remarqué que nous sommes 11? J'aime ce chiffre. Souvent, il apparaît sur les cadrans aussi. À propos du métro, c'est un excellent théâtre de dualité, pour sortir de la dualité. Pourquoi on a choisi un monde de dualité? Parce que on a voulu expérimenter les contrastes. Et quoi de meilleur que un monde tel que la planète Terre pour expérimenter les contrastes? Par le contraste, je peux apprécier l'amour comme si je pouvais choisir l'amour par opposition à quelque chose. Dans ce contraste-là, en vérité, je me rappelle de ce que c'est. Comme le poisson qu'on sort de l'eau pour lui rappeler qu'il est mouillé en permanence, mais il ne sait pas ce que ça veut dire qu'être mouillé pour un poisson. Mais il est mouillé. Alors nous sommes mouillés d'amour et nous avons choisi de sortir de cet océan d'amour pour nous rappeler que c'est notre seule nature. Donc les contrastes sont importants dans notre monde, dans notre jeu de dualité, dans notre pièce de théâtre, bac à sable. Il paraît que la liste d'attente pour s'incarner sur Terre est longue, mais longue.
Mais tout ça, c'est du rêve.
Ils font tous la
c'est
queue.
C'est dans le rêve.
Bien sûr, bien
les
sûr.
Les rêves, ce n'est pas vrai. Hein.
Bien sûr que c'est un rêve. Oui, oui. Mais le rêve a quand même...
L'univers est très vaste.
Le rêve a quand même...
Il y a plein d'extraterrestres qui attendent pour venir ici.
Et le rêve a quand même une utilité. Hein? Alors, dans le métro, moi je m'exerce, je prends rarement le métro, mais quand je prends, je m'exerce à changer mon regard, à regarder derrière la réalité apparente que je vois. Je vois des gens tristes, je vois des gens... gros, mince, je vois des gens qui dorment, qui se coupent avec la musique. Et à l'intérieur, je dis, tous des dieux. Première fois, je me dis ça, j'y crois pas vraiment. Mais je le dis sans y croire, parce que je sais que c'est vrai. Et je dis, mais si, Avi, mais si, tous des dieux, même celui-là, là, qui sent mauvais. Oui, lui aussi. Lui en particulier, parce qu'avec lui, j'ai plus de chemin à faire pour dire oui à sa divinité. Donc, tous les lieux ordinaires, la caissière du supermarché, une déesse aussi. Hein. Celui qui est devant moi à la queue, un dieu. Celui qui est derrière moi à la queue, un dieu. L'employé qui met les fromages sur les rayons, un dieu. Mais tous en train de jouer à la limite du corps humain. Dans la limite du corps humain, se rappeler qu'on est illimité. Venir de la limite pour retrouver par nous-mêmes, sans aide extérieure, le chemin de l'amour illimité, inconditionnel. Alors, sur ce chemin que moi je parcours, j'ai été amené à croiser une série de vidéos qui m'ont beaucoup touché. Et je voudrais lire un petit passage. Cette série de vidéos, elle s'appelle « L'œil d'Horus ». Ça parle de l'ancienne Égypte, de l'école des mystères, et c'est un véritable enseignement non-duel qui vient de l'Égypte ancienne, à travers les Atlantes qui se sont réincarnés en Égypte et qui ont continué leur enseignement non-duel dans des temples en Égypte. Et cette série, elle est visible sur mon site Être Plus. Et en tapant simplement Atlante au pluriel dans le petit carré de recherche, on peut arriver directement à une liste qui fait défiler les 14 vidéos les unes après les autres en série. C'est assez impressionnant, hein, cette série-là. Alors, j'ai été guidé à enregistrer des petits passages parce que je trouvais qu'à un moment donné, ça changeait de ton. Tout d'un coup, on passe à écoutez bien ceci. Hein. Alors qu'avant, c'était plus léger. Tout d'un coup, il y a une profondeur. Et c'était très clair que c'est à ce moment-là qu'il fallait que je déclenche l'enregistrement. Donc, j'ai pas enregistré beaucoup. Hein. J'ai enregistré seulement pour les deux ou trois premières. Mais voici les extraits que j'ai retenus. L'homme se réincarne encore et encore pour se perfectionner et s'élever dans la hiérarchie universelle. Si l'esprit d'un homme ne comprend pas le Créateur, la raison de l'univers ou de sa propre existence, il sera incarné dans un corps. Les expériences de cette vie charnelle lui permettront d'acquérir la sagesse et la connaissance. Dans cette incarnation, dans tout ce qui lui sera donné à connaître, s'opposeront deux extrêmes. Il pourra comparer les éléments de cet univers duel et polarisé, afin de comprendre la vérité. Il apprendra en expérimentant lui-même les conséquences de ses décisions et de sa conduite. Par le chagrin, il comprendra le bonheur. Par l'angoisse, il connaîtra la paix. Au long de ses nombreuses vies, après avoir comparé les deux extrêmes, il comprendra que la seule vérité est au centre, dans la neutralité de l'amour. À travers la réincarnation, l'homme comprend peu à peu. Il devient un être qui respecte tout ce qui existe. Il comprend que tout a une fonction. Il accepte que toutes les circonstances, même les plus difficiles, sont parfaites, car elles lui enseignent la voie de l'élévation spirituelle. Vie après vie, l'homme s'éveille. Il acquiert le savoir, la paix et l'harmonie. Il possède de plus en plus d'énergie vitale. Il devient un être plus tolérant et respectueux. Il accède à la puissance. Il comprend que dans cet univers duel, dans les circonstances les plus contradictoires, la seule neutralité possible est celle de l'amour. L'amour est neutre, tout comme Dieu. Voilà pour cet extrait. C'est assez magique la manière dont l'ancien enseignement des Atlantes continue à se diffuser aujourd'hui sur YouTube. Hein, et donc, il y a de tout partout. Et puis, j'aimerais aussi citer une phrase qui, de Muji, qui est très belle. Muji, c'est un être qui s'est, on peut dire, éveillé. Et c'est intéressant parce que quand on lui a demandé comment ça s'est passé, ton éveil, il a répondu, j'ai demandé de l'aide. C'est très intéressant. Pour recevoir, il faut demander. Hein. Dans notre monde où tout est possible, nous avons le choix, et donc, si nous ne demandons pas, ça veut dire que nous ne voulons pas recevoir. Donc, ce n'est pas implicite. Hein. Demandons, donc demandons. Alors lui, on lui a posé la question, une question très simple, il a répondu d'une manière, pour moi, très très parlante. Il a dit, on lui a demandé, mais Muji, est-ce que vous aimez tout le monde ? Il a répondu, oui, mais pas personnellement. Alors la question c'était, qu'est-ce que ça veut dire, oui, mais pas personnellement ? Ça veut dire que ce qui aime personnellement, c'est l'ego qui va dire, je t'aime toi, Julie, hein, avec cette robe, avec ce visage, avec cette profession, avec ton identité terrestre. Hein, et c'est ça que je vais aimer, ou je vais t'aimer parce que j'ai envie d'une relation amoureuse avec toi, et puis aujourd'hui tu m'intéresses, et puis dans un an, deux ans, cinq ans ou un quart d'heure, tu ne vas plus m'intéresser. Donc, c'est ce qui pose des conditions à l'amour, hein, aimer personnellement. Et quand il dit « j'aime tout le monde, mais pas personnellement », ça veut dire que, comme a dit Elena, n'importe qui est aimé de la même manière. Il n'y a aucune condition à l'amour que Muji peut poser sur quelqu'un en particulier. Donc ce n'est pas personnel. C'est pas lié à l'ego, c'est pas lié à l'identité d'une personne.
Comme je comprends moins, c'est-à-dire qu'il n'a plus son propre « je ». J'aime ça, je suis comme ça, tu vois. Et donc en fait, lui, il est l'amour. Donc il ne peut pas t'aimer personnellement. Parce qu'il n'existe pas personnellement. C'est comme ça que je le comprends.
Effectivement, ici, on peut peut-être se pencher quelques instants, parce que c'est très pratique, sur la différence fondamentale entre les attentes et le ou les désirs. Je me souviens dans les cinq messages qui ont été reçus avec par Sylvain Didlot et moi-même, dans l'espace de deux ans et demi. Le troisième, c'était « Vos pensées sont des propositions divines ». Vos pensées sont des propositions divines. Et la pensée, elle est là. Elle est là, il y a la pensée est là. Donc je prends, par exemple, j'ai envie de violer quelqu'un. Je ne prends pas. C'est OK, parce qu'en fait, tout est divin. Donc, et Dieu, le divin, est neutre. Ça nous est très difficile parce qu'on met une valeur, on met un jugement sur les pensées, sur les formes que l'on peut voir, ce à quoi on peut penser. C'est neutre, totalement neutre. Donc, le désir et les attentes. Une attente, c'est j'attends quelque chose. Est-ce que c'est une attente ? Et si je n'ai pas cette chose-là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais manquer. J'attends mon argent à la fin du mois, j'attends mon chèque, j'attends ceci, cela, j'attends quelqu'un, il faut absolument que je voie cette personne, j'ai rendez-vous, si elle ne vient pas, ça ne va pas aller. Ça, c'est une attente. Le désir, c'est différent. C'est, j'ai envie de manger du chocolat. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de dormir. J'ai envie de je ne sais quoi, je ne sais pas. Et le désir, il est inhérent, il est divin. Sans désir, il n'y a rien. Et sans désir, il n'y a absolument rien. Donc l'univers entier vient de milliards, de milliards, de milliards de désirs, on peut dire. Qui désire ? chacun va trouver une réponse. On peut, c'est des mots. Hein. Les réponses ne sont jamais dans les mots. Les réponses sont toujours dans une vision intérieure, un ressenti profond. Et comme il n'y a que Dieu, tout ce qui est, donc c'est Dieu qui désire, on peut dire. Mais Dieu, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, on est l'expression, la manifestation de Dieu, ce que Jésus appelait le Fils de Dieu dans son vocabulaire. Mais nous sommes quelque chose qui s'exprime. Quand on dit nous, évidemment, est-ce que je parle du corps, est-ce que je parle de l'être que je suis, l'âme, et là, je ne sais même pas ce que c'est qu'une âme, mais ça fait rien, on est obligé d'employer des mots. Parce qu'effectivement, dans la réalité divine, il y a ce mystère de l'unité absolue de toute chose, et en même temps, on peut dire d'une âme particulière, entre guillemets, parce que quelle est la limite entre une âme et une autre âme, on peut dire qu'il n'y en a pas. Donc vous voyez, c'est pas évident tout ça. Maintenant je reviens à cette notion de désir et d'attente. L'attente vient toujours de l'ego. Le désir est divin. On peut dire que l'ego aussi c'est un choix d'expérience. Et donc, toutes les questions que nous nous posons, finalement elles ramènent toujours à la source, à l'origine, à la pensée racine. Disons à ce choix de séparation. Je dis bien choix, parce que comme il y a, d'où vient un désir, et comme j'expérimente, ok, une illusion, un véhicule, un corps, une présence sur une planète, la Terre, une carte d'identité, un passeport, etc., un conditionnement, un environnement, j'expérimente tout ça, mais qui expérimente? Et là, se pose la question. Alors je dis, pour la plupart des gens, mais il n'y a pas de gens. Et s'il y a des gens ou pas de gens, je ne sais pas. Et donc à chaque fois, c'est qui suis-je? Effectivement, c'est qui suis-je? De quoi je parle? Et la réponse, ce n'est pas dans les mots. C'est quelle est ma vision? Tout à l'heure, Ravi nous disait, mais même si c'est théorique, c'est ça que je choisis. Effectivement, c'est ça. Parce que dans le cours en miracle précise bien que dans ce jeu de séparation, en s'incarnant ici, même si on est un avatar, ou si on est très très avancé en conscience, une âme ancienne, on peut dire, eh bien, il y a illusion. Il y a choix d'un jeu de séparation. Donc, il y a oubli. C'est un peu comme si vous êtes très riche, et puis vous avez plein d'argent, et puis vous laissez parachuter au-dessus de l'Amazonie, avec des amis, et puis vous êtes dans la jungle. Il faut s'en sortir. Même si on a beaucoup d'argent quelque part, et qu'on a des moyens énormes, n'empêche qu'on est là. Et donc on a choisi, les 7 milliards que nous sommes, une expérience terrestre. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment frères et sœurs. Qui a choisi? L'un, le tout, c'est le jeu. Puis en même temps, on peut dire aussi, si ça nous parle, que c'est aussi une individualité divine, christique, infinie, en pleine connaissance de cause, il ne peut pas en être autrement, parce que personne ne peut aller contre eux, qui nous sommes. Donc, attente, c'est l'ego. J'ai des attentes. Et là, je me projette dans le futur. Et je ne suis pas libre. Et je fais dépendre qui je suis d'attente. Donc, je m'identifie à quelque chose qui me manque, puisque j'attends quelque chose que je dois avoir, ou que je vais éviter. Mais comme je suis créateur, si je veux éviter quelque chose, un danger, je le crée, puisque je lui donne une réalité. Donc, dans mon expérience, effectivement, je vais... Ça va se manifester. Même chose si j'ai une attente d'avoir de l'argent, une relation amoureuse, quelque chose de vraiment fort qui va me remplir, je crève ce manque puisque j'ai besoin d'être rempli. C'est faux, c'est une illusion. Donc l'attente, effectivement, c'est complètement l'ego. L'ego est neutre. L'ego, c'est un choix d'expérience. C'est ok. Donc on commence à comprendre que ce qui est important, c'est d'arrêter cette culpabilité par rapport à l'ego. L'ego, c'est un choix d'expérience, c'est tout. C'est un jeu extraordinaire, un jeu de séparation puissant, incroyable, qui nous montre l'univers entier qu'on peut appréhender, 14 milliards d'années-lumière.
Excuse-moi, est-ce que tu veux te réveiller ou est-ce que tu veux jouer?
La question est, est-ce que je veux me réveiller ou est-ce que je veux jouer?
Toi, personnellement.
Moi, personnellement.
Est-ce que ça te passionne comme ça et tu préfères rester dormir?
Tout dépend de... La réponse, ce n'est pas ce que je vais te donner. La réponse, elle est en toi, la réponse. Parce que tu es en train de... C'est comment tu me vois? Qui suis-je? Un éveillé ne voit que des éveillés. Donc il n'y a aucun problème. Donc ce qui est important, ce n'est pas de savoir si je vais me réveiller ou pas, ou si un tel veut se réveiller. Pour toi, tu me poses la question, si je te réponds, je vais me réveiller ou je veux dormir, qu'est-ce que ça va changer pour toi? C'est ça qui est important, c'est pour toi la question. Donc pour moi, la question, elle ne me concerne que moi. Et un éveillé ne voit que des éveillés, donc tout le monde est divin, rien d'autre. Et donc il n'y a pas d'éveil, c'est une illusion. Et pourtant, on parle beaucoup d'éveil. Et pourtant, Dieu sait, j'ai même traduit le livre de Tom Carpenter, Dialogue sur l'éveil. On parle de choses qui ne sont pas réelles. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit, vous avez besoin de faire un voyage qui n'existe pas. Un voyage sans distance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Effectivement, le mental ne peut pas comprendre. Parce que ici, on a choisi une expérience de séparation, et il n'y a pas de séparation. Donc à chaque fois, on est en porte-à-faux, tout le temps, en apparence. C'est bien en apparence. Et la question, c'est, ok, d'accord, j'ai choisi un jeu, alors j'y vais. Donc j'ai choisi le sentiment d'être un corps physique. Là, c'est Sylvain qui parle, un homme, ouais, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas l'expérience d'avoir un vagin ou des ovaires, ou d'avoir un corps féminin. Peut-être dans l'autre vie, peut-être j'ai eu cette expérience, mais j'ai oublié, parce que j'ai joué un jeu. Mais qui a joué le jeu? Et à chaque fois, on revient à l'identité de qui je parle. C'est une question d'identité. Et donc on peut dire que c'est celui qui joue le jeu, c'est l'esprit, c'est qui nous sommes, c'est l'un que nous sommes. Donc il n'y a qu'un acteur. C'est pour ça que le cours nous dit bien, et je le cite, mais il n'y a pas. Si vous n'aimez pas le cours, si vous ne voulez pas lire le cours, ça n'a aucune importance. Cette fameuse leçon 135, d'ailleurs les deux tiers ou les trois quarts de la leçon, quand il y a cette phrase magnifique, que ne pourriez-vous accepter si seulement vous saviez? Que ne pourriez-vous accepter si seulement vous saviez que tout événement, tout ce qui arrive, tout événement passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un, avec un U majuscule, dont le seul but est votre bien. Donc tout ce qui se passe est arrangé par l'esprit d'amour. Que ne pourriez-vous accepter si seulement vous saviez? On peut dire, oui, mais tout ça, c'est des bêtises, il faut arrêter, parce que les guerres, les viols, etc., alors c'est l'esprit qui fait ça. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que l'esprit ne désire pas la guerre ou le viol, mais c'est, tu veux la guerre? C'est ok, tu es amour, tu fais ce que tu veux. T'as peur, il y a des peurs, etc., tu veux faire un viol? C'est ok. L'esprit dit toujours oui. Mais l'esprit, c'est chez l'autre. Donc le violeur et violé, c'est la même chose, c'est l'un. Et c'est là qu'effectivement, on commence à comprendre qu'on joue un jeu, mais qui peut paraître terrifiant, qui peut paraître atroce, épouvantable. Et donc là, on est devant quelque chose qui nous heurte, effectivement. C'est puissant. Et la réponse, c'est à ta question, est-ce que tu veux te réveiller ou... Moi, je veux voir clair. Donc je veux voir qui est l'autre. Donc je veux voir, quand je vois un violé et un violeur, je veux voir qui sont le violé et le violeur. Ça m'intéresse. Et ça, c'est moi, c'est Dieu, c'est ce qui est. Seulement, c'est pas le violé et le violeur. Donc, je suis obligé de lâcher prise totalement. Permettre et m'abandonner. Seulement, je commence à comprendre à qui je m'abandonne et à quoi je m'abandonne. Je m'abandonne à l'amour. Je m'abandonne à ce qui est réel. Ce qui ne peut pas être menacé. Tout à l'heure, ce que nous citait Raymond, rien de réel ne peut être menacé, rien de réel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu, c'est la fin de la courte introduction d'un cours au miracle. Donc, le viol, l'agressivité, la culpabilité, la peur n'existent pas, la souffrance n'existe pas. Elles sont vécues comme réelles. Par qui? Par quelque chose qui rêve.
Par celui qui joue et qui croit dans ce jeu.
Tu nous dis par celui qui joue et qui croit dans ce jeu. Et en fait, celui-là n'existe pas, il n'est pas réel. C'est pour ça que le pardon dont parle tant le cours au miracle, c'est vraiment... Pardonne-moi la croyance que tu es limité, que tu es un violeur, que tu es même. Je te mets dans une boîte, que tu es un enfant, que tu es un vieillard, que tu es un thérapeute, que tu es français, que tu es ça. C'est très bien, c'est un jeu qui est joué. Mais qui tu es, c'est infini. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de vous là qui écoutez ce qui est dit là. Et ce qui c'est pas ce que vous êtes, c'est pas ce que vous apparaissez, c'est pas l'âge, le corps sous lequel vous semblez apparaître, c'est qui vous êtes qui m'intéresse. C'est une occasion de vraiment de dire c'est ça que je veux. C'est ça que je veux voir. C'est pour ça que le cours en miracle va nous dire on arrive à par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux la vraie vision. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment, je veux voir ce qui est réel. Et comme dit le courant miracle, on ne peut pas voir deux mondes. C'est soit le monde de l'illusion, le monde qui est bâti sur la séparation, soit le monde réel. Mais ces deux mondes s'excluent totalement. Et on ne peut voir qu'un des deux mondes, pas les deux. Effectivement, soit il y a séparation, soit il n'y a pas séparation. Soit tout est un, soit il n'y a que lumière, et rien d'autre, soit il y a, c'est le chaos. Et en fait, je suis là, et nous disons tous « je ». Et nous savons très bien ce que c'est que l'amour, parce que ça, c'est inviolable, c'est qui nous sommes. Ah, ça commence à prendre un sens. C'est très pratique, c'est très concret dans toutes les situations. On parlait tout à l'heure de la caisse du supermarché, avec la caissière ou le caissier d'ailleurs, etc. Oui, à chaque fois, c'est très concret, c'est partout, c'est à tout instant. Alors, j'ai commencé en parlant d'attente et de désir. J'accueille tous mes désirs, mais je l'accueille dans la confiance de l'enfant. Alors on dit, oui, mais tu as envie d'aller taper sur quelqu'un qui t'a choqué. Oui, c'est vrai, je note ce désir, mais je veux aller, c'est une attente, je veux un résultat, mais mon désir c'est maintenant, donc j'accueille l'instant, j'accueille tout. Et je m'aperçois à ce moment-là, je fais l'expérience qu'il y a une harmonie qui s'installe dans ma vie, et qu'à ce moment-là, j'ai plus envie de me battre. Et qu'à ce moment-là, les armes se posent naturellement. Et qu'à ce moment-là, il y a une douceur qui se passe, qui arrive. Et une compassion profonde, une compréhension profonde. Donc à ce moment-là, je n'ai plus envie d'aller frapper quiconque. Je n'ai plus envie d'aller voler quiconque. Parce que je vois bien que je me vole moi-même, que je me frappe moi-même. Vous voyez, mais ça, c'est une expérience, ça vient peu à peu. Ça vient peu à peu. Alors on parle d'éveil, Oui, on parle de temps. Oui, le temps existe. Le temps n'est pas réel. Einstein le disait déjà. Mais le cours en miracle dit bien qu'il y a deux usages du temps. Par l'ego, pour la séparation, ou par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit que quand on choisit en permanence, le plus souvent possible, l'amour, eh bien, on économise énormément de temps. Il parle même de milliers d'années dans certaines leçons du cours. Tout ça, c'est un jeu illusoire, d'accord ? Ce sont des mots qui peuvent parler à l'un et qui ne parlent pas à l'autre. Il n'y a pas besoin de lire un cours en miracle, il n'y a pas besoin de lire un livre, il n'y a rien besoin, on n'a besoin de rien. C'est des choses qui sont utilisées. Et à propos, le fait, je viens de dire qu'on n'a besoin de rien, eh bien, aussi bien sur Terre que dans l'univers, la pensée la plus difficile à admettre, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est ce que dit le cours en miracle, ça fait couler beaucoup d'encre, on en parle beaucoup. En anglais, c'est « you need do nothing », tu n'as rien besoin de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais qui fait ? Il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a pas besoin de lire un cours en miracle, il n'y a pas besoin d'avoir un job, il n'y a même pas besoin d'avoir un corps, il n'y a même pas besoin d'être là sur la planète. Il n'y a rien besoin de faire. C'est une notion très, très difficile à admettre. Parce qu'on est tellement conditionné par quelque chose. Tout à l'heure, tu me posais la question de savoir, est-ce que tu veux te réveiller ou dormir ? Il n'y a rien besoin de faire, je n'ai pas besoin de me réveiller ou de dormir, quoi. Pas besoin, j'écoute mon désir, je vois que des éveillés, il n'y a que des éveillés, il n'y a que Dieu, donc qui dort ? Personne. S'imagine dormir. Et c'est ça, mais est-ce que ça vous parle ? Et ça vous parle comme ça vous parle. Et ce que vous vivez, c'est parfait. Et vous êtes dans un processus parfait. Nous sommes dans un processus parfait. Effectivement, comme c'est un processus parfait, il n'y a rien besoin de faire.
On parle un jour de haine de soi. Parce qu'on parle toujours de l'amour, on parle toujours de l'amour, et ça met comme ça. Mais quand on vit le rêve de dualité, et ben l'autre côté, souvent, c'est la haine. Et la première haine qu'on a, c'est la haine de soi. Et ça, il faut honnêtement le voir à l'intérieur de soi. Sans ça, pas de décontraction possible. Il faut accepter se juger autant qu'à essence soi-même. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on parle plus de... parce qu'on a trop versé dans l'amour. Non, mais sans haine, sans acceptation de la haine, on ne peut pas avancer dans la direction de...
Parle avec le micro.
Moi, c'est tout.
Alors, c'est tout.
C'était une idée.
Effectivement, mais c'est autre chose. Mais bien sûr, tout est lié. Donc, l'amour, justement, le fait d'être là présent et de ne pas avoir d'attente, mais de suivre ses désirs, ça ne nie pas du tout d'observer des émotions, d'observer des pensées de haine, de jalousie, de peur, de culpabilité, ou comme ça à l'infini. Bien sûr, au contraire d'ailleurs, d'observer. Mais qui observe ?
Mon cours en miracle, c'est dit où existe que l'amour ou la peur. Il n'y a pas autre chose. Et à partir de là, ça se développe. Ça veut dire que la haine vient de la peur.
Oui, du coup, on nous dit qu'on n'a que deux émotions. L'une qui nous a été donnée lors de notre création, l'autre que nous avons fabriquée. Et c'est le mot « to make ». Et dans le cours, dans le texte, très spécifiquement, dans tout le cours en miracle, il y a une différence fondamentale dans les termes entre créer et fabriquer. C'est-à-dire que le mot créer, c'est l'apanage de Dieu, de ce qui existe, de ce qui est réel, et c'est l'extension de soi-même. L'amour s'étend lui-même. L'ego imagine fabriquer des choses, et c'est le mot to make. Et alors qu'en anglais, c'est to create, c'est créer. Nous, on dit, j'ai créé, par exemple, un tableau, j'ai créé une société. Bon, d'accord, mais ça, c'est pas ce terme-là qui est employé dans le cours en miracle. Et le principe de l'amour, de l'existence, c'est de s'étendre, donc de créer. C'est-à-dire de s'étendre lui-même, parce que ça n'est qu'amour, donc ça n'est que don de soi-même à soi-même, donc c'est une création perpétuelle, en esprit. Dans la manifestation physique, dans un univers gigantesque, qui n'est forcément irréel, puisque tout est transitoire, pas permanent, donc pas éternel. C'est une, un bac à sable, c'est un terrain de jeu formidable, gigantesque, infiniment complexe, multidimensionnel, mais qui permet d'exprimer de l'amour, de partager l'amour. Donc, je reviens à cette notion d'attente et de désir. Effectivement, j'observe mes désirs, je les accueille, j'observe mes émotions, je les accueille, et c'est cet accueil total, aussi bien de mes émotions, de mes désirs, que des désirs des autres et des émotions des autres, qui est moteur d'éveil, on va dire, on peut dire de se rappeler qui nous sommes. Parce que, on peut dire que l'éveil, c'est se rappeler qui nous sommes, mais quand on se rappelle qui nous sommes, on voit qu'on a toujours été ça, donc il n'y a que des éveillés, évidemment. Ça ne peut pas être autrement, il n'y a que Dieu et rien d'autre. Donc personne ne s'éveille. En réalité, il n'y a personne qui s'éveille. Si c'est trop intellectuel, si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Mais ça peut aider certains. De toute façon, les mots sont toujours limités. Les mots n'ont pas. La vérité n'est pas dans les mots. La vérité, c'est qui vous êtes et qui je suis, qui nous sommes tous. La vérité, c'est Dieu, c'est ce qui est, c'est la vie, c'est le vivant. Les mots, c'est quelque chose qui fait partie de la dualité. Donc, c'est pas réel. On ne trouve pas la vérité dans les mots. On ne peut pas trouver la vérité de ce qui est réel dans ce qui n'est pas réel. Ça paraît très intellectuel, c'est vrai, mais c'est vraiment logique, mais c'est vraiment ça. Alors, on va dire, oui, mais qu'est-ce, alors comment faire ? Aimer. Puisque je suis amour, donc je choisis l'amour. Et c'est en aimant qu'on se rappelle qu'on est amour. Donc en pratiquant, la vie a été guidée à faire de cette journée, aujourd'hui, plus quelque chose de pratique. Donc partager l'expérience, pratique c'est ça, c'est vraiment aimer. Et donc quand on se demande tous, à des moments, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai toujours avoir une mission, j'aimerais faire ceci, cela. La question c'est pas ce que je vais faire. Ça n'a pas de valeur ce que je vais faire. Je peux créer des sociétés, je peux créer des choses formidables, écrire des bouquins, être un auteur célèbre, des gens qui vont me dire, mais ça aide beaucoup de gens. C'est pas ça. C'est comment je vois, comment je suis à l'intérieur. Est-ce que je suis en amour, vraiment, ou dans la peur? Et parce que nous sommes un. C'est pour ça que le cours nous dit, tes pensées ne sont pas neutres. Donc quand je suis en amour, j'aide tout le monde. Souvent je dis qu'un berger dans les Causses, près de Cahors, là sur les plateaux, il garde une quinzaine de moutons, personne ne le connaît, il est là, il l'a, et puis il rayonne d'amour. Il fait un travail énorme, parce qu'on est un. Et quelqu'un d'autre qui va apparemment faire des choses beaucoup plus dans l'ego, ça n'aide personne. C'est son rôle parfait, attention, parce que c'est moi qui le fais. Donc si je juge quelqu'un, immédiatement je crée ce rôle. Donc quelle est la sortie du tunnel? C'est l'amour, c'est l'arrêt des jugements. Parce que j'arrête de perpétuer ce jeu qui apporte finalement un terme de la souffrance. Donc quand je me mets à vraiment aimer, je pose les armes, je commence à expérimenter une harmonie et je participe à la création du monde nouveau. C'est un monde d'harmonie incroyable. C'est tout. C'est très simple, c'est très très concret. Et c'est pas des grandes choses, ça se passe là où je suis et là où vous êtes, à chaque instant, n'importe où. La nuit, même quand on est seul dans son lit la nuit, ça se passe là aussi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, et moi je remarque qu'on change, on évolue. Très souvent, même c'est en dormant que je fais ça. Je me réveille à moitié, je dors à moitié, je suis là, dans cette énergie amoureuse, où je me mets à parler, ou des choses comme ça, cette expérience. J'ai pas envie trop d'en parler, parce que c'est pas les vôtres. Et pourtant, c'est la même. Mais si ça vous parle, tant mieux, et si ça vous parle pas, que ça ne fasse pas de différence. Parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. Personne n'est en retard. On n'a rien à atteindre, on n'a pas à changer quoi que ce soit, puisqu'on est déjà tout. Donc l'éveil, c'est de voir que tout le monde est éveillé. Tout le monde est infiniment divin, il n'y a rien d'autre. Donc c'est très très concret. Donc évidemment, on s'aperçoit qu'on joue un jeu incroyable, où il y a une illusion phénoménale de sentiment de séparation profond, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ah, pas vrai. Comment c'est pas vrai? Oui, mais attendez, regardez, écoutez les nouvelles télévisées. Oui, je sais tout ça. On sait. Mais dans l'instant présent, je peux toujours choisir. On respire et je choisis la paix. Je choisis justement un autre regard. Tout à l'heure, quelqu'un disait, je suis en retard, je vais encore prendre mon temps pour peut-être aller regarder le plan de métro. Et j'aime bien Talleyrand, c'est la seule phrase que je connais, qui disait un jour, il monte dans son fiacre avec son cocher, Talleyrand, là. Et il dit, doucement, aujourd'hui nous sommes pressés. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est ça. Donc savoir prendre son temps, on n'est jamais en retard. On ne manque jamais de rien. Oui, mais on va dire, il y a des gens qui nous attendent, il y a des gens qui ont des attentes autour de nous. Oui, oui, évidemment, les gens ont des attentes. Ce sont des attentes d'ego. Toute attente vient de l'ego. Ça n'a rien de mal. L'ego est partout. L'ego est partout, dans l'apparence. Donc c'est ok, je le sais. Donc, autour de moi, dans ma famille, dans mon milieu professionnel, dans mon milieu social, partout, il y a des attentes. Je le sais. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'écoute ce que j'ai à faire. J'accueille ces attentes, mais je ne rentre pas dedans. C'est-à-dire que j'y réponds, ok, j'ai un passeport, ok, j'ai ça, j'ai des impôts à payer, je les paye, si je sens de les payer, si je ne sens pas de les payer, je ne les paye pas. Il y a limitation de vitesse, je sens de les respecter, je les respecte, ou je ne respecte pas. À chaque fois, je suis libre. Ce qui est important, c'est pas ce que je fais, c'est comment je le fais. Et si je me mets à rouler très vite sur l'autoroute et que je dépasse la vitesse, est-ce que je le fais dans l'amour ou dans la peur? Ou dans la haine, ou dans la colère. Et je m'aperçois que si je choisis l'amour, à ce moment-là, ma vie devient extrêmement fluide, libre, joyeuse, amusante, parce que c'est vraiment ça. Ça devient très très amusant.
Merci Sylvain. Moi j'ai envie de dire que avant de connaître le cours en miracle, j'étais une mendiante de l'amour. Je ne savais pas que tout était déjà là, je ne savais pas que tout était en moi, je ne me souvenais plus, devrais-je dire d'ailleurs, d'où je venais et quelle était mon origine. En fait, je ne me souvenais plus que j'étais tout amour. Et donc, je mendiais l'amour. Je le mendiais dans le regard de l'autre, dans son approbation. Enfin, j'étais absolument pas autonome, en fait. Hein. J'étais complètement dépendante. Aujourd'hui, mon nouveau métier, c'est de donner des conférences, de partager ma guérison à la manière du courant miracle. Le thème, d'ailleurs, de mes conférences maintenant, c'est comment j'ai fabriqué la maladie et comment j'ai co-créé la guérison. Et évidemment, je l'ai co-créé avec le Saint-Esprit. Et c'est un clin d'œil. C'est vrai que c'est ça toute la différence, en fait. Est-ce que je choisis de vivre ce que je vis? Est-ce que je choisis d'utiliser les outils que j'utilise dans la peur ou dans l'amour? Je peux me couper si j'utilise mal un couteau, si je l'utilise dans la peur, dans la colère ou dans la haine. Si je suis présente à ce qui est dans cet instant-là, si je mets de l'amour dans ce geste-là, il y a peu de chances que je me coupe, en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est très très important, cette présence à soi avec le Saint-Esprit, au service du Saint-Esprit, être l'hôte de Dieu. Alors Dieu, pour moi, c'est la dimension infinie d'énergie universelle. C'est ma définition, hein. D-I-E-U, voilà. J'aime bien, c'est oui, tout amour, énergie, c'est ça, mais voilà. Voilà, merci beaucoup pour ces partages, merci pour votre présence, merci pour tout ce que j'ai entendu, ça me donne beaucoup de joie, merci.
Alors on va bientôt s'arrêter au niveau, en tout cas, enregistrement, et nous pourrons continuer à partager entre nous, hors micro, de manière plus informelle. J'aurais aimé parler brièvement du pardon véritable qui, en fait, représente un changement de vision. Toi qui m'agaces, en fait, je t'ai mal perçu. Voilà ce que ça veut dire, le pardon véritable. Toi qui m'agaces, je ne t'ai pas vu avec les yeux de l'amour. Je t'ai vu avec les yeux de l'ego et je t'ai vu comme un ennemi, comme un adversaire, comme quelqu'un qui me veut du mal, etc. J'ai cru que tu pouvais me faire mal. Et donc je me suis trompé dans ma perception. Le pardon véritable est enseigné dans un cours en miracle d'une manière assez profonde, avec des leçons quotidiennes. Mais en particulier dans le livre de Gary Renard, Et l'univers disparaîtra, qui est là. Gary Renard donne un processus de pardon véritable qui est assez intéressant. Mais avant de le dire, j'aimerais dire que Gary Renard disait, avant, quand je devais pardonner, ça me prenait 30 ans, aujourd'hui 30 secondes. Et c'est intéressant, hein, parce que l'ego s'accroche aux rancunes. Hein, l'ego tient à cette particularité-là de « toi, 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 qui m'a fait mal, je vais pas t'oublier. Hein, » Et ça va durer 30 ans, et en vérité, je vais m'empoisonner avec la rancune pendant 30 ans. Donc, le processus de pardon, c'est « j'ai été momentanément happé par l'ego et dans une situation désagréable, j'ai réagi avec l'ego au lieu de réagir avec amour. » Et ça nous arrive à tous, hein, puisque on est sur le chemin entre choisir la peur et choisir l'amour, et parfois on choisit la peur. Tout ça n'a rien.
D'accord, il faut quand même attendre. Il faut aller vers sa peur, pour aller voir pourquoi.
Je vais pas te dire, hein, devant tout le monde. Non, il faut
parce
pas voir pourquoi.
Aller directement vers l'amour.
Non. Attends. En fait, ce qui se passe. Tu veux parler?
Non, vas-y.
En fait, ce n'est pas. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit.
Je disais que c'est bien beau de dire aller vers l'amour. Faut-il encore avoir travaillé ses peurs?
je suis tellement décontractée que je ne me souviens pas maintenant. Ouais. Ça change comme ça. Je ne me souviens plus la rancœur, tu vois, elle s'en va. Et je ne me souviens plus ce qui est dit. Il faut qu'on me répète, tu vois, pour que je dise, ah oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas travailler tes peurs. Qu'est-ce que tu veux dire travailler tes peurs? C'est de... Qu'est-ce que veut dire travailler tes peurs? Qu'est-ce que travailler tes peurs veut dire?
C'est aller chercher ses émotions. Quelque chose, je peux parler au passé, mais me faisait peur, j'allais chercher pourquoi, quelle émotion ça évoquait en moi. Ben ça, c'est, j'étais déjà un peu mature hein, quand je réfléchissais comme ça. Mais parce que maintenant, je suis heurtée par plus rien du tout, Dieu merci, enfin, je crois. 30 secondes, moi, il ne me faut pas 30 secondes, c'est instantané. Pourquoi celui-là, il me gonfle? Bon, pof, allez, pof. Mais c'est tout un long chemin. On ne peut pas aller de l'un à l'autre facilement. Je pense que c'est le privilège de l'âge, ce que tu disais au départ. Sur, tu as commencé par quelque chose et tu disais, oui, il faut... oui, avant, ça me prenait 30 ans, maintenant, ça me prend 30 secondes. Il y a aussi le privilège de l'âge, de merci. Mmh. Avec les rides, on s'enrichit.
En fait, c'était pour dire, il faut faire attention, qu'est-ce que veut dire comment étudier sa peur, en quelque sorte. C'était dit comme
oui,
ça.
Oui, moi, je trouve que c'était intéressant ce que vous alors, avez parlé de la haine.
Oui, mais c'est juste, c'était pas au sens... Parce que quand l'humain dit... travailler sa peur, il faut voir y aller, c'est un petit peu comme aller chez psy, tu vois. Et moi maintenant, avec l'expérience, je trouve que ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est juste avoir le courage d'affronter ça, ta haine, c'est tout. C'est une émotion que tu affrontes à l'intérieur de toi et tu ne bouges pas. Tu te mets à l'écart et tu l'observes. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que je dis, oui, je vais l'excuser, mon papa, ma maman m'a fait ça, mais parce qu'ils avaient mal la tête, ben non, ils n'avaient pas assez de conscience. C'est pas du tout ça, c'est rentrer dans l'ego et hop là, direct dans les choux, tu vois, on ne s'en sort plus jamais. C'est-à-dire qu'il faut te mettre comme quelqu'un qui est un peu neutre en quelque sorte. Hein. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta haine. Tout simplement, tu l'en as. Donc, tu la regardes. C'est tout. Et cette émotion qui monte, et tu veux te sauver. Justement, j'ai eu une conversation avec un ami comme ça. Il avait une peur comme ça. Et c'est comme si le feu était tout autour de lui, tu vois. Il fallait qu'il reste tranquille à ce moment-là. Alors que ça brûle partout comme ça. Mais tout simplement, laisse-le brûler. Il ne va pas te brûler. Parce que c'est la peur, c'est comme un fantôme. Ou... la haine, c'est pareil, hein, parce que ça vient de là. Hein. Donc en fait, il faut être assez stoïque.
Il faut avoir de l'amour pour faire ça. Exactement.
Non, c'est neutre. C'est
mais
neutre.
L'amour, c'est neutre.
Non, pour moi...
Dans cette situation, moi je pense que c'est l'amour.
Bah, c'est-à-dire que quand tu as la haine, tu es submergé, tu vois ce que je veux dire.
On ne peut pas les séparer. C'est l'amour qui va t'aider dans cette situation de rester neutre et d'affronter ses peurs.
Non, je n'accroche pas du tout l'amour.
Non, 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 mais non, c'est on ne s'accroche pas.
Je le vois juste.
Parce que tu es plongé dans l'amour à ce moment-là.
Non,
tu ne le vois pas comme le poisson qui ne voit pas l'eau. C'est ça.
Mais il faut faire attention parce que tu sais, les gens ils vont chercher l'amour, ils vont chercher la douceur, ils vont regarder la haine en face. Je n'ai pas dit regarder la haine, votre haine en face avec la douceur. Pas du tout, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous regardez comme si tout ça était un film et ce n'était pas à vous. Mais ce n'est pas l'amour du tout. Tu comprends ce que je veux dire?
Moi je comprends.
Ouais. Je ne sais pas. Vous allez voir, hein, venez nous voir, vous allez raconter vos expériences.
L'amour n'est pas faire plaisir, c'est là justement de quoi on parle. L'amour, c'est pas être gentil, l'amour, c'est accueillir. C'est très important, parce qu'effectivement, quand on parle d'amour, on nous a appris ça, l'amour, c'est il faut être gentil, il faut être poli, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est un accueil absolu. Donc, tout à l'heure, quelqu'un disait « Dieu est neutre ». Dieu est totalement neutre, au sens de l'amour est totalement neutre. Il ne cherche pas à faire plaisir, il accueille à l'infini. Non, c'est vraiment fort. Et cet amour-là, à ce moment-là, va être créateur, mais ça devient une expérience de joie, d'harmonie, de sensation de liberté, de guérison, de miracle et autres. Mais c'est totalement neutre au sens de ça n'a pas d'objectif, ça ne cherche pas à faire plaisir, ça ne cherche pas à sécuriser quoi que ce soit. Ça accueille. C'est vraiment fort. Hein. Si on médite là-dessus, ça va commencer à nous parler.
Alors, au niveau technique, il y a plus d'une centaine de personnes qui nous écoutent. Si vous voulez parler, levez la main et attendez que le micro soit là. Ça nous force aussi à écouter l'autre, hein, cette méthode-là.
Alors, parler de l'amour, moi, c'est bien, bien sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas assez bien, c'est pas bien, mais... je trouve que ce qui est encore plus nourrissant, c'est des exemples comme ton prénom,
Caroline
dans le métro, parce que ça c'est concret. On peut faire passer là un message, je trouve. Enfin, personnellement, je pense qu'il faut qu'on passe à l'action. Et enfin, j'aime pas ce mot-là, mais il est intéressant de passer à l'action. Et au travers, pourquoi pas, des exemples vécus dans la semaine. Voilà, parce que en parler, c'est bien, mais tout ça, c'est intellectuel. Moi, j'avoue que ça me donne les vapeurs. Par contre, un exemple comme celui-là, moi, je trouve que c'est somptueux, parce que tout le monde a été confronté à quelqu'un qui, dans le métro, est irrespectueux. Et tout le monde a rencontré quelqu'un qui n'était pas forcément comme on aurait envie qu'il soit. Et puis ça nous fait travailler. Et puis je trouve ça, enfin moi je vous remercie pour cet exemple parce que je le trouvais très porteur.
Moi je dirais goûter à la peur. Goûter à la phobie, goûter au stress, goûter au traumatisme, goûter à ce qui est. Parce qu'à partir, en fait, à partir du moment où vous êtes rempli d'amour, ça ne fait que un. Donc en fait, la joie comme la blessure, ça ne fait que un. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les blessures, les traumatismes, la dépression, on va dire le mal, nous permet en fait de... C'est un signe en fait, ça permet de comprendre en fait, de grandir, d'évoluer. Et en fait, il y a quelque chose en fait à comprendre en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut en fait... Il ne faut pas le considérer comme un ennemi, mais comme un ami. Et pour moi, il y a autant d'amour dans la tristesse que dans la joie. Il y a autant d'intelligence dans la tristesse que dans la joie.
Tout dépend comment on le prend.
Tout dépend comment on le prend, exactement. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as, on va dire, un regard, on va dire, différent. Tu as un regard différent. Et, ouais, mais quand tu es, en fait, c'est... En fait, la question... Oui, je sais bien. Et vous savez, je suis conscient qu'il y a un ego, et j'accepte d'avoir un ego. On parle d'attente, on parle de désir. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on dit atteindre le nirvana, atteindre l'éveil. Parce qu'il y a trois étapes dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme. On dit, on atteint cette étape-là, la troisième étape, lorsqu'il y a l'extinction du désir. Parce que s'il n'y a plus de désir, logiquement, il n'y a plus d'ego. Et s'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de souffrance. Et moi, je vous dis en connaissance de cause, parce que je suis passé par là. Justement, c'était hier. La paix, ça fait un bout de temps que je l'ai. Mais déjà, il faut savoir que je disais, la plus belle chose qu'une personne pourrait avoir dans ce monde, c'est la paix intérieure. C'est ce que je disais. Et en fin de compte, non. Puisque pour moi, être en paix, c'est bien. Mais l'amour, la paix, l'énergie et la compassion, c'est différent. Parce qu'on peut être en paix et ne pas avoir de la compassion pour autrui. On peut être en paix et ne pas avoir d'énergie. Mais tu veux un exemple concret? Je fais une activité que j'aime pas. Il y a plein de trucs, j'ai pas rentré dans les détails, mais je fais des trucs que j'aime pas. Je dois des embouteillages tous les jours. Et je suis dans les embouteillages tous les jours. Je travaille avec des personnes exécrables. Et la seule chose que je me dis, c'est merci. Merci, 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 parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'entre le rien et le tout, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Et moi, à titre personnel, je n'attends rien parce que je dis merci.
Un chèque à la fin du mois, je suppose, quand même.
Pardon ?
Un chèque à la fin du mois.
Même pas. Pour moi, le plus important, c'est le partage. C'est échanger. Ensuite, non, là, quand tu es rempli d'amour, tu n'as pas besoin d'argent parce que tu sais, parce que tu es serein, parce que tu es en paix. Quand tu es en paix, tu n'as besoin de rien. Et justement, on disait tout à l'heure que... On parlait d'attente et de désir.
Alors, tu aimes ce que tu fais. Si tu es en amour, en paix.
Tu ne peux pas parler seulement avec le micro. Oui. Demande le micro si tu veux.
Comment tu peux dire que tu fais tous les jours quelque chose que tu n'aimes pas et quelques secondes après dire que tu es dans la paix, serein et amour? Alors, tu aimes ce que tu fais. Et quand tu dis merci... Tu ne remercies pas pour quelque chose que tu n'aimes pas faire.
Je vais répondre à des questions. On parlait de Moody tout à l'heure, et des êtres éveillés comme lui, il y en a plein. Plein. Moody, Krishnamurti, Isabelle Padovani, Jeff Foster, il y en a plein. Après, on disait tout à l'heure, un être éveillé voit des gens éveillés. C'est vrai, mais on voit des gens éveillés, mais les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont éveillés. C'est facile d'être en paix lorsqu'on est éloigné, en fait. Lorsque tu es ce qu'on appelle à l'arrière-plan, dans un monde, on va dire, céleste. Un peu comme je dirais, peut-être. C'est l'impression qu'ils me donnent Moody. Ils sont, ou comme, je ne sais plus comment ils s'appellent, écartolés. Il y en a plein qui le disent, qui sont à l'arrière-plan. Tout est beau, tout est rose, il n'y a rien à faire, je suis, tout est là, il n'y a rien à faire. Mais le petit hic, c'est qu'on est dans un monde occidental. On est, moi, à titre personnel, voilà, je suis dans Paris, métro, etc. Et c'est beaucoup plus difficile d'être en paix dans ce bordel. C'est-à-dire avec la joie, les embouteillages, la peur, etc. J'ai eu la réponse, je ne sais pas, la semaine dernière, c'est par Jeff Foster. Il disait oui, que ce monde était un bordel. Moi, par le passé, je n'acceptais pas que la vie était un combat ou que le monde était un bordel. Et je me suis dit, mais oui, comment ça se fait que je n'aime pas ce que je fais là et il y a une paix en moi? Je sais, j'ai une certaine réponse, mais... Parce que, un, je sais que c'est un passage... Parce que je sais que c'est un passage, c'est juste un passage, parce que c'est moi qui l'ai décidé. C'est mon corps qui m'a dit, va faire ça. Et je suis en fait, depuis que j'ai abandonné l'ego, les pensées, le mental, et que je me suis abandonné, guidé, bercé par le cœur, tout vient naturellement. Pour moi, il n'y a pas d'attente, ok, et pour moi non plus, il n'y a pas de désir, puisque tout est là. Lorsque tu es en paix et que tu es serein, tout est là, il n'y a pas de désir, puisque tout est là. Tout va arriver, tout vient en temps et en heure. Laissez la nature agir au moment opportun. Parce que pour moi, après le désir, il y a du plaisir. Après le plaisir, c'est ce qu'on appelle une joie temporaire, éphémère. C'est bien d'avoir du désir. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Mais c'est juste qu'après le désir, il y a un plaisir. Et le plaisir, ça ne dure pas. Ça dure un jour, deux jours, un an. Contrairement à une paix, c'est permanent et c'est durable. Mais moi-même, je me suis dit, mais comment ai-je fait pour avoir la paix? J'ai pris conscience et je pense que je l'ai reçu tout simplement. Et on parlait tout à l'heure de dire, on disait, oui, pour recevoir, il faut demander. Moi, je dirais, c'est le discours que j'avais par le passé. Oui, frappez, demandez et vous recevrez. Moi, je dis, lorsque vous savez qui vous êtes exactement, on n'est pas le créateur, mais on est la créature. Donc, on a les mêmes capacités, on a la même nature. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on a la même nature, il n'y a même pas à demander, puisque tout est là. Si vous demandez, c'est que vous êtes en attente. Si vous priez, c'est que vous êtes en attente. Si vous priez, si vous attendez quelque chose, ou si vous désirez quelque chose, c'est qu'il y a une séparation entre ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et pour moi, on parlait d'instant présent, non, il y a juste à accueillir en fait. Accueillir ce qu'il y a à accueillir. Goûter ce qui vient là en fait. S'il y a une peur, s'il y a un traumatisme, s'il y a une raison. S'il y a même des gens qui ont peut-être vécu beaucoup plus de traumatisme. Vous savez, j'ai 33 ans, j'ai vécu dans la que des souffrances depuis 32-33 ans. Mais en pleine plonge, je me disais... J'ai compris pourquoi j'avais peur du noir. J'ai compris pourquoi j'avais peur des fantômes. J'ai compris pourquoi j'avais peur des serpents. J'ai compris pourquoi j'avais peur... Oui. Et on se rend compte qu'en fin de compte, si on arrive à trouver à...
Qui c'est on ?
Deux.
Tu dis on se rend compte, non ?
Je me suis rendu compte que non, en fait, que dans la peur, c'est génial, en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de temps. Tu...
Je joue, en fait. Maintenant, tu as compris.
Tu ne reviens pas hors micro, s'il te plaît.
Oui, mais c'est...
Alors, tu veux donc lève la main.
Ah non, je ne peux pas.
Mais juste pour finir, mais en tout cas, moi, je prends conscience que... Moi, je prends conscience que chacun a sa vérité. Et il y a une chose... moi, je... C'est pas un jugement, c'est juste un... C'est pas, ouais, c'est même pas un jugement, c'est juste un constat. Je connais beaucoup de gens... Ouais, d'érudits. Ils ont un grand savoir. Ils parlent. Mais je vous pose juste une question simple. Mais est-ce que tu es heureux? Et c'est là qu'on voit que non. Ou un ami musulman qui me disait tout à l'heure, je lui pose la question, mais tout ce que tu me dis là, c'est ce que tu as entendu, est-ce que c'est ce que tu as lu, ou c'est ce que tu as vécu? Non, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris à travers des gens. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je vis, en fait. Et je dis merci parce que je vis révélation sur révélation. Et, ouais, voilà, c'est, voilà. Il y a un livre qui est juste en face de, qui est juste là. Noce de lumière. Je suis la lumière. Tu vois, même là, la bougie, c'est parce que ça fait un. Tu es la lumière.
En fait, je traduis, tu te rends compte que tu es la lumière. Et maintenant, tu as assez de recul avec tout ce que te donne l'image d'ici, quoi, tu vois. Et tu commences à comprendre que tu joues. Et c'est de là qu'il y a le plaisir, même dans la souffrance, comme tu dis, tu vois ce que je veux dire. Mais tu es déjà reculé par rapport à ça. Tu ne prends pas déjà au sérieux tout ce qui se passe. Parce que si tu te prends au sérieux, c'est pour ça quand tu dis... je ne me souviens plus ce que tu as dit exactement, mais ça voulait dire un petit peu vous êtes malheureux, restez comme ça, c'est pas grave, tu vois. Les gens s'écroulent, ils pleurent, ils enlèvent tout ça, ils se sentent très mal, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ils croient ce qui leur arrive comme à leur arrivant personnellement. Personne ne croit ici qu'on n'existe pas. Chacun de nous croit être une individualité. Or, qu'est-ce qui se passe comme ça? D'après ce que moi, je n'ai pas trop envie de le voir, tout étant regardant un petit peu derrière les rideaux, tu vois. On parle là, mais il n'y a personne. C'est un qui fait toutes ses voix. Tu comprends? Voilà. Et tu commences à te rendre compte peut-être de tout ça. Il n'y a personne, il n'a jamais été personne. Tout ça, c'est une image animée.
Mais
je parle à lui, c'est vivant.
Par le passé, je me disais également, prendre du recul aux choses, se détacher aux choses. Mais ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne prends pas que du recul. Je prends du recul et je prends de la hauteur. Parce que prendre du... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu comprends. Prendre du recul, c'est une chose, mais prendre du recul et de la hauteur, c'est autre chose. Prendre de la hauteur. Et en bas et en haut. Et Moi, je sais pas. Moi, je suis conscient que j'ai un ego et je suis content d'en avoir un. Parce que dans ce monde de bordel, il faut en avoir un.
Et
pour moi, oui. Pour moi, oui. Un minimum. Non, mais. Non,
il n'y a non, pas de minimum. Il n'y a pas à moitié bien.
Non, un ego ne veut. Non, pour moi, l'ego, ça ne veut pas dire être supérieur à autrui. Ou ne pas dire que j'ai raison. C'est pas ça. C'est un exemple, quand je vous écoute parler, ben voilà, j'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de dire que tu as tort. J'ai le droit de dire parce que. Exactement. Pour moi, oui, mais.
En fait, c'est
non.
Ce que tu...
Pas de discussion. Pas de discussion. Pas pour toi, ça.
Voilà, c'est dans ce sens-là. J'ai un jeu, voilà. Chacun a son témoignage, chacun a sa vérité, chacun a son expérience que je respecte. Mais j'ai un jeu. Et grâce à ce jeu, j'ai le droit de dire, ben voilà. Moi, j'ai vécu cette expérience-là et je considère que c'est comme ça, que c'est comme ça. Après, si l'autre personne est en paix, je ne vais pas le déranger. Il est en paix, il est en paix, il est heureux. C'est aussi simple que ça. Mais juste, je vais juste finir par donner un exemple concret, parce que tu parlais d'exemples concrets, parce que j'en ai plein, en fait, si tu veux. En fait, je ne sais pas, c'est comme si il n'y a rien qui m'atteint, en fait. C'est étrange, c'est... En fait, ça m'est arrivé hier matin. Je disais à mon ami, il s'appelle Massoud, je lui disais, Massoud, j'ai une sensation qui est étrange là. C'est que je suis en paix comme d'habitude, merci, mais j'accueille instant après instant, mais je veux rien. En fait, ce que je veux inconsciemment, je vais l'avoir, je sais, donc je suis serein, mais je veux rien. Je me suis posé la question, ok, j'ai 33 ans, si je meurs dans 3 mois ou dans 6 mois, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et je dis rien. 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 Un exemple, je pouvais partir à Dubaï, et j'ai pas envie parce que ça change rien. Parce que quand tu es bien à l'intérieur, en fait, que tu sois en France ou à Dubaï, c'est exactement pareil en fait. C'est exactement pareil. Juste un exemple, j'ai mes parents qui sont partis au Vietnam, en Asie, pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, ils disaient « Ah, on en avait marre. On avait marre d'aller à la plage, on avait marre du soleil, marre de bien manger, marre de se faire des massages, marre de ceci, marre de cela. » Vous imaginez ? Ça prouve qu'on est sans cesse dans la recherche et sans cesse en train de se plaindre.
Non.
Je. Ou les personnes que je connais, mais... Et pour moi, non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle après le plaisir, après le désir, il y a du plaisir.
C'est ce que tu appelles, c'est pas ce qu'on appelle.
C'est ce que j'appelle, ou c'est ce qu'on me disait également.
C'est ce qu'on me disait, oui. Qui c'est le con?
Pardon?
C'est ce qu'on me disait, qui c'est le con?
Je sais pas, je veux pas.
Essaye de pas engager de conversation, c'est inaudible.
Mais juste, en tout cas, non, je... Non, mais en tout cas, juste pour finir, je suis très content d'être parmi vous, d'écouter chaque témoignage. Oui, vous savez, quand j'entends... Je pratiquais par le passé le bouddhisme Kadampa tibétain et la pleine conscience avec le maître, je ne sais plus comment c'est, le maître Thai, Anti Chan, qui disait que embrasser n'était pas bien. Ou les discours de Moody qui sont dans un arrière-plan. Ben voilà, voilà, c'est ça. C'est un discours qui n'est pas. Il y a des choses à prendre, il y a des choses qui ne sont pas à prendre en fait. On dit souvent la voie du milieu, c'est la voie de la sagesse. Voilà, moi je suis désolé, se cacher sous une grotte et dire oui, tout est beau, tout est rose, on a une paix et qui est véridique, c'est pas la voie du milieu. Être musulman et mettre une robe ou même être bouddhiste, avoir la robe, non, je suis désolé, c'est pas être dans la voie du milieu. C'est pas être dans la voie du milieu. Pour moi, la voie du milieu, c'est voilà, être dans ce mode occidental, être matérialiste et être spirituel. Et ça, c'est la voie du milieu. Ça, c'est la voie du milieu pour moi. Et pour moi, il y a beaucoup plus de fierté pour des gens comme nous, qui habitons sur Paris, avec une vie spirituelle, une vie matérielle. Ça, c'est pour moi ce qu'on appelle un certain équilibre. Même si le zéro, la ligne médiane, est très difficile, qui est même inatteignable peut-être. Mais pour moi, on a beaucoup plus de fierté. On a beaucoup plus de fierté, voilà. Avoir la vie matérielle et la vie spirituelle qui ne font qu'un, c'est la voie du milieu. Contrairement à d'autres personnes qui sont 100% spirituelles ou 100% matérielles, on n'est plus dans la voie du milieu. Mais voilà, c'est mon discours à moi. Moi, je suis... j'apprends, je ne sais pas où j'ai des révélations que j'ai. Maintenant, je suis peut-être dans l'erreur, je ne sais pas. Moi, on peut tout me dire, en fait. Hein, on peut tout me dire et j'écoute avec attention. Je n'ai pas toute la vérité, je ne sais pas. Je ne sais rien, d'ailleurs. Vous savez, je dis quelque chose, je ne sais même pas 1%. Je suis persuadé. Hein, je n'ai même pas la 1% de savoir ou de ressources que vous avez, vous. Mais j'en suis persuadé. Mais je vous assure, c'est vrai, parce que vous ne me connaissez pas. Mais, dans ma philosophie d'aujourd'hui, c'est quand tu n'as rien, tu as tout. C'est inexplicable. Mais par rapport à Sylvain, je n'ai même pas 1% de ce qu'il a. Et tu sais pourquoi j'en suis persuadé. Ou de Avi, ou d'autres personnes. Mais je n'ai même pas 1% de ce qu'ils ont. Mais c'est juste que j'ai choisi, moi, le ressenti que la théorie. Voilà, tout simplement. J'ai choisi l'expérimentation, j'ai privilégié l'expérience que la théorie ou que la lecture.
Donc on va s'arrêter bientôt, mais je suggère simplement, c'est une suggestion, parce que c'est pas évident. Pourtant, Dieu sait si on en parle souvent. Et je vais citer le cours, tant pis, et avec joie. Tant mieux. Est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? Mais c'est bien, est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? Et on ne peut pas être heureux et avoir raison. Parce que si j'ai raison, c'est quelqu'un a tort et personne n'a tort. Donc, histoire de connaître des choses, moi je ne connais pas le cours. Je sais, il y a même des passages que je n'ai jamais lus. Pourtant, j'en ai traduit, passé des milliers d'heures, 2000 heures au moins, à traduire une partie du texte, etc. Donc, je ne sais rien non plus. Rien. Comme tout le monde, j'ai une expérience, le personnage, une expérience, c'est tout. Mais je ne sais rien. C'est pas ce qu'on... Je ne sais rien. Et c'est pour ça que j'observe que je suis amené à parler du cours en miracle, parler des tas de choses, mais avec mon cœur, c'est ça qui est important. Mais je ne sais rien. Et je pèse mes mots, c'est vrai. Et on ne sait rien. Voilà. Merci, en tout cas, à chacun ici.
Voilà, on va bientôt terminer l'espace de témoignage. On pourra avoir un peu plus d'interactivité. Je sais que parfois c'est très tentant de répondre tout de suite, de donner son point de vue, mais c'est difficilement audible. C'est pour ça que c'est un groupe de partage, de témoignage. Chacun parle de son expérience, de son vécu. Alors je voudrais terminer en donnant ce processus de pardon véritable. Que cite Gary Renard, c'est le mot processus est important. Il ne s'agit pas de dire tout est amour et je nie la haine. Le processus, il arrive à un moment où on se sent, chacun qui le vit, se sent attiré à le faire, et forcément il y a eu un travail de détachement, un travail d'observation, un travail de regarder en face les émotions. Et en même temps, le fait de dire processus, c'est une sorte de gymnastique, une sorte d'entraînement de l'esprit à penser juste. Parce que l'esprit qui pense de manière fausse en disant « toi tu as tort et moi j'ai raison », nous entretenons la séparation et nous renforçons les haines et tout ça. Hein, donc c'est important de se rappeler, de revenir à la maison intérieurement de temps en temps avec ce processus de pardon. Ce n'est qu'un exemple, hein, bien sûr, il y en a plein d'autres. Gary Renard cite en quelques phrases ce qui lui permet de pardonner véritablement, c'est-à-dire de voir l'autre avec des yeux d'amour, même s'il y a l'agacement, hein, même si j'ai vécu quelque chose qui m'a contrarié. Alors il dit, tu n'es pas réellement là. Si je pense que tu es coupable ou que tu es la cause du problème, et si je t'ai inventé, alors la culpabilité et la peur imaginaire doivent se trouver en moi. Depuis que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu, je nous pardonne à tous les deux ce que nous n'avons pas réellement fait. Il n'y a plus maintenant que l'innocence et je me joins en paix avec le Saint-Esprit. Voilà, ce n'est pas une phrase miracle, ce n'est pas une phrase de vérité, mais c'est une phrase qui nous rappelle les choses vraies et qui est une sorte de auto-rééducation de l'esprit à penser l'amour, à penser juste, plutôt que à renforcer la séparation entre moi et mon frère ou ma sœur. Voilà, sur ce, merci à ce groupe riche de bien vivants aujourd'hui, de témoignages. Ça pourrait être écouté et réécouté sur le site Être Plus dès demain ou après-demain. Merci à tous ceux qui écoutent ce groupe en même temps, à distance, et qui forment un groupe bien plus grand qu'il n'y paraît. Voilà, j'ai la guidance d'inviter un prochain groupe à propos de la peur de mourir, mais bien sûr ce sera qu'une structure pour commencer, et le thème ce sera toujours « Nous sommes un ». Voilà, on termine avec un gong, et puis on pourra continuer à échanger entre nous hors micro. À très bientôt.